Vous écoutez
RMC. RMC, Apolline Matin.
Le journal de Thibaut Texer. Bonjour Thibaut.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. Des frappes simultanées ce matin sur Téhéran, en Iran, mais aussi au Liban, menées par Israël au quatrième jour d'une guerre qui s'étend au Moyen-Orient. Nous irons à Beyrouth dès le début de ce journal, frappé aux premières lueurs du jour. Nous serons également à Washington, où Donald Trump promet une nouvelle vague de bombardements sur l'Iran et n'exclut pas l'envoi de troupes au sol. Enfin, des peines pas plus lourdes, voire même allégées pour trois des quatre hommes jugés en appel au procès de l'assassinat de Samuel Paty.
Le Liban, une nouvelle fois visé ce matin par Israël.
De violentes explosions entendues tôt ce matin dans la capitale, Beyrouth, sur place et en direct. Marion Gauthier, vous êtes l'envoyé spécial RMC. Des frappes ciblées contre le Hezbollah qui se multiplient depuis plus de 24 heures maintenant.
Oui, les habitants ici les comptent par dizaines près de l'ambassade iranienne, de l'aéroport hier soir. Beyrouth s'est réveillée ce matin au son des bombes lancées sur sa banlieue sud, le quartier où vivent majoritairement les membres du Hezbollah. Une épaisse fumée grise s'élève dans le ciel. Le son des avions militaires, des drones, pèse sur le moral de certains. Il y a de la résignation aussi chez Maria, une infirmière de 21 ans.
Ma famille vit dans le sud du pays et moi je suis forcée de rester ici pour le travail. C'est dur de voir les gens perdre leur maison, leur travail, des familles déchirées. C'est quelque chose qui aurait pu être évité. J'étais là il y a 2 ans, j'espérais que ce serait la dernière guerre, mais je savais que ça pouvait arriver de nouveau. Je suis triste et déçue, je suis triste pour mon pays, vraiment.
Des frappes donc sur Beyrouth, mais Téhéran également, des frappes menées par Israël, action militaire justifiée cette nuit par le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, s'est exprimé cette nuit dans une interview à la chaîne américaine Fox News, Marion.
Oui, il l'a justifié par le développement des programmes nucléaires et de missiles balistiques iraniens. Le Premier ministre israélien assure que l'Iran avait commencé à construire de nouveaux sites, des bunkers souterrains qui auraient bientôt été intouchables. « Vous n'allez pas avoir une guerre sans fin », a tout de même insisté Benjamin Netanyahou. « Cela pourrait prendre du temps », dit-il, « mais pas des années ».
Marion Gauthier, envoyée spéciale RMC à Beyrouth en direct ce matin. Autre prise de parole, celle de Donald Trump qui promet de répondre à l'incendie de l'ambassade américaine à Riyad, cible de drones iraniens. Les États-Unis affirment ce matin avoir détruit des postes de commandement des gardiens de la révolution. Et ce n'est pas fini. Antoine Lard, vous êtes le correspondant RMC à Washington. Le président américain hausse le ton et avertit l'Iran que le pire est à venir.
Oui, on voit que Donald Trump montre les muscles. Il dit que l'Iran n'a encore rien vu et promet que la grosse vague de bombardements reste à venir. Pour bien montrer sa détermination, le président fait savoir qu'il n'exclut pas d'envoyer des troupes au sol. Pour le moment, ça n'est pas du tout d'actualité, mais Trump dit que si c'est nécessaire, il le fera. Ce sujet est très sensible pour l'opinion publique américaine et cette déclaration, c'est avant tout un message pour Téhéran, une façon d'afficher qu'il est prêt à aller au bout. Le président qui détaille enfin les objectifs de cette opération, alors qu'il y avait beaucoup de flou à ce sujet ces derniers jours, Trump désormais définit 4 objectifs. Détruire tous les missiles iraniens et les usines qui les produisent, anéantir la marine, pas d'armes nucléaires et faire enfin en sorte que l'Iran ne finance plus les groupes terroristes. Trump ne parle plus de changement de régime et assure que les opérations pourraient se poursuivre au-delà des 4 à 5 semaines qu'il avait annoncées.
Une guerre avec ses conséquences économiques importantes à l'échelle mondiale, conséquence du blocage du détroit d'Ormuz. L'Iran menace de brûler tout navire qui s'aventurerait dans cette zone maritime incontournable de la région, voie de passage stratégique, Cassandre Brault, pour le pétrole et le gaz.
Oui, car les principales réserves de gaz mondiales se trouvent dans les sous-sols du Qatar et de l'Iran. La conséquence sur les marchés est donc inévitable, selon Jean-Pierre Favennec, spécialiste de l'énergie.
Ça va se voir sur le prix du gaz, sur le prix du pétrole, ça va se voir sur tous les prix de ces matières premières énergétiques. Donc on va avoir une crise assez forte.
Des inquiétudes sur le secteur de l'énergie, mais pas seulement. L'arrêt total du trafic dans le détroit d'Ormuz pénalise grandement le commerce maritime, selon Bruno Desmoura Fernandez, responsable macroéconomie chez Coface.
Justement, c'est un grand problème pour le commerce mondial parce que les bateaux devaient, au lieu de passer par là, faire le tour de l'Afrique et ça rajoutait entre 9 et 14 jours. Donc c'est considérable et ça augmente les coûts, etc.
D'autant que ce conflit arrive après l'offensive de Donald Trump sur les droits de douane, après le Covid et la guerre en Ukraine.
Le commerce mondial, il est clairement chahuté. Il y a une multiplication des impacts sur le commerce mondial. Si ça dure, il est probable qu'on ait vraiment de l'inflation.
En France, le ministère de l'économie va rencontrer quotidiennement les dirigeants des secteurs concernés par la guerre au Moyen-Orient, tant que la crise sera à ce pic d'intensité.
Enfin, notez que le trafic aérien reste toujours perturbé ce matin dans les pays du Golfe. Quelques avions ont pu tout de même décoller comme à Abu Dhabi où un vol a permis à près de 250 Français de rejoindre Paris hier soir. Vous entendrez leur soulagement dans le journal de 7h30. Et c'est dans ce contexte qu'Emmanuel Macron a présenté la nouvelle doctrine de dissuasion nucléaire de la France. Dissuasion avancée associant 8 pays européens. Ils n'auront pas le pouvoir de décision ultime, prévient le chef de l'État qui précise que la France restera souveraine en la matière pour être libre. Il faut être craint, dit le président qui annonce la construction d'un nouveau sous-marin lanceur d'engins et l'augmentation du nombre de têtes nucléaires sans en préciser le nombre. Il est 7h06, vous écoutez RMC. 4 hommes condamnés en appel hier au procès de l'assassinat de Samuel Paty, des peines de 6 à 15 ans de prison prononcées tard hier soir après plus d'un mois de procès. Ils étaient rejugés pour leur rôle dans la mort du professeur d'histoire-géographie en 2020, accusé d'avoir mené une campagne de haine en ligne contre le professeur. Pierre Bazin, service police-justice RMC, des peines qui n'ont pas été alourdies, au contraire.
Oui, parmi eux, seul le prédicateur Abdelhakim Sefrioui a été condamné à la même peine qu'en première instance, 15 ans de réclusion criminelle. Ses avocats ont annoncé qu'ils comptaient se pourvoir en cassation. Tous les autres voient leur condamnation allégée en appel. Brahim Chnina, le parent d'élève qui avait multiplié les vidéos sur les réseaux sociaux visant Samuel Paty, voit sa peine passer de 13 à 10 ans de prison en appel. Enfin, pour avoir fourni des éléments de logistique et avoir conduit Anzorov sur les lieux de l'attentat, les deux autres hommes qui étaient également poursuivis, ses deux amis, ont vu leur peine largement réduite en appel, condamnés tous les deux à 16 ans de réclusion criminelle en première instance. La cour spécialement constituée les condamne à 6 et 7 ans de prison. Il leur reste donc quelques mois de détention puisqu'ils sont incarcérés depuis plus de 5 ans tous les deux.
Évoquant une hospitalisation à Genève, Tariq Ramadan n'était pas présent hier à l'ouverture de son procès à Paris. Une expertise a donc été ordonnée par la cour criminelle avant la reprise de l'audience cet après-midi. Le prédicateur doit y être jugé pour 3 viols. Le propriétaire de Curtis, jugé pour homicide involontaire à partir d'aujourd'hui. Curtis, c'est le nom de ce chien, soupçonné d'être à l'origine de la mort d'Elisa Pilarski, mordue par l'animal de son compagnon. Elle avait été retrouvée sans vie dans une forêt de laine en 2019. Et puis un chiffre maintenant, 1,2 milliard. C'est en euros le coût de la première estimation des dégâts des tempêtes Niels et Pedro qui ont balayé l'ouest du pays en février. C'est le résultat d'une estimation de France Assureur. Et puis un mot de la Coupe de France avec le début des quarts de finale. Strasbourg reçoit Reims à 21h. Ce soir, ce sera à vivre bien évidemment sur RMC.
C'était le journal de Thibaut Texer, il est 7h08.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Aucune goutte de pétrole ne doit quitter la région. Voilà la menace cette nuit d'un général iranien qui promet donc que les prix du baril vont atteindre les 200 dollars dans les jours qui viennent. Bonjour Anne-Sophie Alsif. Bonjour. Vous êtes économiste, spécialiste de ces questions d'énergie. Est-ce que on pourrait manquer d'essence en France? Est-ce que les prix vont vraiment augmenter? Vous voulez rassurante ce matin? Non, pour le moment, ni pénurie, ni explosion des prix. C'est votre parti pris, vous nous le dites dans un instant. Et vous qui nous écoutez, n'hésitez pas à nous appeler au 3217. À tout de suite.
RMC jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
Il est 7h11 et vous êtes bien sur RMC et à la télé sur RMC Story Canal 23. Plus 40% pour le gaz européen, plus 13% pour le baril de pétrole. Les prix des hydrocarbures se sont envolés hier avec l'embrasement au Moyen-Orient. Bonjour Anne-Sophie Alfis. Vous êtes économiste dans le cabinet d'audit BDO France. Votre parti pris ce matin, c'est que faut pas paniquer. C'est qu'il ne faut pas paniquer parce que pour le moment, il n'y a ni pénurie, ni explosion des prix à la pompe. Vous en êtes sûr?
Alors justement, vous l'avez très bien dit, pour le moment. Déjà, il faut voir de quel contexte on parle. On est dans un contexte post-guerre en Ukraine et post-Covid. Depuis ces deux crises, le monde s'est beaucoup diversifié sur les questions énergétiques. Et parce qu'on a eu en effet ces crises et ces deux situations particulières, on n'est pas du tout dans la situation 2019 ou 2010. L'autre élément, c'est qu'au niveau international et français, on a un fort ralentissement de l'inflation. L'inflation, c'était 1% en 2025. La prévision, c'est 1,3% cette année. Et pourquoi on a un des taux d'inflation les plus bas de la zone euro? Notamment en raison des prix de l'énergie qui sont très bas dans cette contribution. L'autre élément qui est important, c'est le poids et le baril du pétrole. Vous l'avez dit, il a augmenté, mais avant cette crise, on l'a vu quand il y a eu la crise avec Israël, hein, qu'est-ce qui s'est passé depuis la crise avec le Covid? C'est que les producteurs de pétrole ont énormément produit. Comme vous êtes dans un contexte où la croissance mondiale se maintient, voire ralentit, eh bien, en termes d'offres et de demandes, finalement, vous avez beaucoup d'offres, moins de demandes. Et c'est pour ça que même quand on a eu le conflit avec Israël, on a eu un baril qui est resté aux 65-70 $.
Est-ce que les attaques ciblées contre des infrastructures peuvent changer la donne? Quand on regarde qu'effectivement hier, le Qatar a donc annoncé l'arrêt de sa production de GNL, le gaz naturel liquéfié, après une attaque de drones iraniens, que cette nuit, l'Arabie Saoudite a été touchée par des attaques iraniennes. Et ce mot prononcé donc par un des hauts dignitaires du régime iranien qui dit « aucune goutte de pétrole ne quittera la région ».
Oui, là c'est sûr qu'on est dans la joute politique, voilà, pour des raisons évidentes économiquement. Là, en effet, la grande question, c'est combien de temps ça va durer ? Est-ce que ça va rester localisé dans la région ou on va vraiment assister à un conflit qui devient mondial ? Et là, en effet, si on est dans ce cas de figure, là, il y aura un impact significatif. Cet impact est beaucoup plus important pour le gaz, hein, en effet, avec la production du Qatar, que pour le pétrole, parce que comme je le disais, pour le pétrole, les conditions sont différentes, vu qu'il y a eu beaucoup de production depuis plusieurs
années. Parce qu'on a élargi, parce qu'on a diversifié... Oui. Le détroit d'Hormuz est aujourd'hui bloqué depuis cette nuit. Hein, 20% du pétrole mondial y transite et un certain nombre aussi de commerces en tout genre.
Tout à fait.
Combien de temps, au fond, ce que je comprends, c'est que vous êtes rassurante à court terme, mais vous vous dites, voilà, si ça dure, on aura plus de mal à tenir. À partir de quand est-ce que vous considérez que ça devient un problème ?
Alors, voilà, c'est très compliqué parce que ça dépend de dire par rapport à quand, qu'est-ce qui est bloqué et dans quelle proportion. Ce qu'on va voir à court terme, vous l'avez dit, c'est vraiment l'impact sur les prix. Donc c'est là, en effet, on peut être plus impacté en Europe. Vous l'avez dit pour le prix des hydrocarbures, mais pas seulement. Hein, dans ce détroit, vous avez aussi beaucoup de marchandises qui passent. Et donc, en effet, les containers vont augmenter leur prix. Et donc, ça peut avoir un impact sur l'inflation puisque le prix des marchandises pourrait être plus cher. Mais là encore, une fois, si c'est contenu, on n'est pas encore dans un choc inflationniste comme on l'a compris.
Alors, on a quand même besoin de comprendre parce qu'il y a un certain nombre d'auditeurs qui depuis ce matin nous envoient des messages ou nous appellent pour nous dire que les prix à la pompe ont déjà augmenté. C'est votre cas d'ailleurs, il me semble, Vincent. Vous êtes sur les routes. Bonjour Vincent.
Oui, bonjour Antoine.
Vincent,
bonjour,
qui est agent de la fonction hospitalière en Dordogne, vous avez fait le plein et vous avez constaté que ça avait déjà augmenté pour vous.
Ben, alors je sais pas si c'est lié au conflit actuel, mais en tous les cas, je sais que le gasoil, il a pris 4-5 centimes en quelques jours.
C'est-à-dire que là, il était à combien quand vous avez fait le plein ?
1,71,9.
D'accord. Et la semaine dernière ?
1,65,9 ou 1,66.
Donc ça, c'est dû à quoi ? Attendez, je vais demander immédiatement. Est-ce, ça, c'est dû à quoi, Anne-Sophie Alsif ?
Alors, dans le prix à la pompe, hein, comme ce monsieur est allé, vous avez plusieurs éléments qui composent le prix. Bien sûr, vous avez le prix du matière première. Donc, en effet, il y a cette augmentation parce qu'il y a cette crise et ce conflit. Donc, en effet, c'est tout à fait dû à ça. Mais pas seulement. Vous avez aussi la marge du distributeur. Et puis, vous avez aussi les taxes. Donc là, l'idée, c'est de dire quoi ? C'est de dire que dans les prochains jours, on va voir si la situation continue. En effet, vous pouvez avoir des augmentations et c'est déjà le cas. On l'a vu, quelques centimes parce que c'est lié à l'augmentation des matières premières.
Donc ça, c'est lié. Si c'est quelques centimes, c'est lié.
Exactement. Par contre, après, si ça dégénère ou si on a vraiment un très grand choc, eh bien, il y a des mécanismes qui existent pour essayer de moduler ou de tempérer cette explosion des prix. Et puis, bien évidemment, si après on est sur des scénarios graves, on a 100%, $100 le baril, là, en effet, on est vraiment dans une crise
Vincent,
majeure.
Vincent, on peut vous poser la question, est-ce que c'était une pompe de village ou est-ce que c'était sur l'autoroute, une grande chaîne ?
Non, c'est en ville, sur Périgueux.
D'accord. Et donc, il est possible que ce soit quand même aussi le pompiste qui se soit fait plaisir.
C'est ce que je dis.
Tu en es profité pour augmenter sa marge.
Ça, je ne sais pas la situation. Mais ce que je dis, c'est que dans la composition du prix, vous avez plusieurs éléments. Donc, c'est pas juste le prix du baril et vous avez une crise géopolitique. Le lendemain, ça augmente.
Anne-Sophie Alsif, il y a cette invitation de Jordan Bardella sur Twitter hier soir à ce que, un, la baisse de la TICPE et de la TVA soit immédiate pour anticiper. Et deux, il parle aussi de la suspension. Il demande la suspension immédiate des règles européennes de fixation des prix de l'électricité, actuellement indexées sur les prix du gaz, pour rétablir un prix national de l'électricité. Parce qu'au fond, vous nous l'avez dit, les prix du gaz sont importants. Est-ce que Jordan Bardella dit vrai lorsqu'il dit que ça aura une conséquence aussi sur le prix de l'électricité ?
Alors, ça a des conséquences sur le prix de l'électricité, mais pas que pour cette raison. Pourquoi ça a des conséquences sur le prix de l'électricité ? Parce que, justement, depuis 3-4 ans, on a une augmentation de l'électrification du parc, que ce soit l'industrie, les voitures électriques, qui ont explosé. Et donc, vous avez plus de demandes d'électricité.
Mais pardon, les prix de l'électricité, ils sont toujours fixés en fonction des prix du gaz ?
Alors oui, il y a une corrélation, puisque là, en effet, quand on voit ce qui se passe avec le détroit d'Hormuz, forcément, il y aura un impact. Après, ce qui se passe aussi, c'est que...
Mais j'avais l'impression que ça avait été après, justement, le début de la guerre en Ukraine.
Au niveau européen, justement, pour essayer de moduler par les actions de diversification. Mais on ne peut pas dire qu'il n'y a absolument aucune corrélation. Par contre, au niveau européen, il y a des mécanismes, justement, qui existent depuis qu'on a eu ces crises en Ukraine pour éviter qu'on ait des explosions. L'autre élément, c'est qu'on a aussi des stocks, des prévisions, et on l'a dit, de la diversification pour éviter de se retrouver dans un choc inflationniste majeur.
Et la question aussi du reste du commerce, parce que là, on parle évidemment de l'énergie et des prix de l'énergie. Mais selon l'agence Bloomberg, les plateformes d'e-commerce, donc notamment Amazon, Temu, Shein, pourraient rallonger leur temps de livraison. Ça aura aussi des conséquences sans doute sur les prix, parce qu'une partie passe aussi par le détroit d'Hormuz. Il n'y a pas que du pétrole.
Non, tout à fait. C'est ça l'une des conséquences. Vous avez plein de biens industriels qui passent. Et donc, vous allez avoir plusieurs scénarios où on va avoir une augmentation des prix des cargos. Et c'est déjà le cas. Donc, en effet, le distributeur peut se dire on augmente les prix. D'autres vont dire non, on va essayer de garder des prix attractifs pour rester compétitifs et on va allonger les durées de commande.
Merci beaucoup Anne-Sophie Alsif, chef économiste pour le cabinet d'audit BDO France. Et merci à Vincent pour son témoignage du côté de Périgueux. Il est 7h18 et c'est l'heure de remonter le temps. Arthur Chevalier vient de rentrer dans ce studio. Bonjour Arthur.
Bonjour Apolline.
Arthur, le testament de Napoléon va être exposé au public.
Ah oui, c'est un document exceptionnel que l'empereur français a écrit à la toute fin de sa vie. Ce sont ses derniers mots. Un testament dont il y a encore des traces aujourd'hui.
Vous serez avec nous dans un instant pour nous le dire. Il y aura aussi Arnaud Demange qui va venir pirater le face-à-face. Mon invité à 8h30, c'est le ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot. Ne bougez pas, on se retrouve dans 60 secondes sur RMC. Il est 7h19.
RMC, Apolline Matin.
Il est 7h20 et notre passionné de Napoléon est là, Arthur Chevalier. À partir de demain, les Français vont pouvoir découvrir, en vrai, le testament de Napoléon. Une partie de ce document exceptionnel sera exposée au Musée des Archives Nationales à Paris jusqu'à la fin du mois de juin.
Oui, et c'est un événement national, puisque ce testament...
Mondial, dites-le, Arthur, j'ai bien compris.
Puisque ce testament, on l'expose très peu habituellement. Il est conservé dans un coffre-fort qu'on appelle l'armoire de fer des Archives Nationales. C'est là où, en fait, on garde les archives les plus précieuses de l'histoire de France.
De quand date ce testament ?
Alors d'abord, il faut un peu de contexte. Voilà l'histoire. Nous sommes en 1815. Napoléon perd sa dernière bataille contre l'Angleterre, la bataille de Waterloo. Du coup, il est chassé du pouvoir par les pays européens contre lesquels il avait beaucoup fait la guerre. Il est un peu puni, si vous préférez. On décide de l'exiler loin, très très loin du continent européen, dans une toute petite île, une île anglaise, une sorte de caillou, au large de l'Atlantique Sud, perdu entre le Brésil et l'Afrique du Sud. Cette île, elle s'appelle Sainte-Hélène.
Donc en fait, il était prisonnier des Anglais.
Exactement, prisonnier des Anglais, et il vivait dans une maison très modeste. C'était une sorte de grande ferme qui s'appelait Longwood. Et au quotidien, c'était pas la joie. Le climat à Sainte-Hélène était horrible, humide, venteux. Et Napoléon n'avait quasiment rien à faire, donc il passait son temps à lire, à jardiner et à râler contre tout le monde, puisque oui, le jardinage, c'était une de ses passions. Il a lui-même dessiné les plans de son jardin à Sainte-Hélène. Il a lui-même choisi les plantes, les fleurs et les bosquets.
Et c'est donc sur cette île qu'il va écrire son testament.
Exactement. Les dernières années de sa vie, Napoléon souffrait d'un ulcère à l'estomac, très violent. Il était épuisé par la maladie. Mais en avril 1821, donc 6 ans après son arrivée, il trouve la force de rédiger son testament. Alors, qu'y a-t-il dans ce testament ? Alors d'abord, bien sûr...
Il trouve la force de rédiger son testament.
Ne vous moquez pas de moi, Pauline.
Mais non, rappelle... c'est votre amour de Napoléon.
D'abord, il rappelle son amour pour la France, évidemment pour sa femme, pour son fils. Et ensuite, il fait une très longue liste d'objets, d'argent et même de vêtements qu'il léguait à des fidèles, des proches ou des anciens soldats. Sa dernière volonté, c'est de reposer sur les bords de la Seine. Napoléon meurt le 5 mai 1821. Ses derniers mots, ce sont « France, tête de l'armée ». Il avait 51 ans.
Quand est-ce qu'on a découvert ce testament en France ?
Alors, le document arrive 5 mois après, donc au mois d'octobre à Paris. Et un problème s'est posé tout de suite. Napoléon avait légué beaucoup plus d'argent qu'il n'en avait réellement. Et oui, donc on a fait beaucoup de déçus. Il y a eu beaucoup de réclamations. Ça va être une sacrée affaire. La succession va durer 40 ans avec pas mal de surprises. Puisque Napoléon avait carrément légué de l'argent à des départements français, des départements qui avaient souffert de ces guerres. Et aujourd'hui, il en reste quelque chose. Par exemple, dans les Hautes-Alpes, vous avez un refuge de montagne qu'on utilise toujours aujourd'hui. Ce refuge a été payé grâce à l'héritage de Napoléon donné aux Hautes-Alpes. Ça s'appelle le refuge Napoléon-Var. C'est un lieu magnifique. Je vous invite tous à y aller.
Merci Arthur Chevalier, l'historien d'Apolline Matin et passionné, vous l'aurez entendu et compris, de Napoléon. Il est 7h23, Arnaud Demange.
RMC.
Demange pirate, le face-à-face.
Bonjour Arnaud, dans le face-à-face tout à l'heure à 8h30. Mon invité, c'est le ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot.
Oui, Jean-Noël Barrot. Les Américains l'appellent John Christmas Big Dick, les Allemands Johannes Weihnachten Grosse Schlong et les Brésiliens Juan Carnaval Bella Zizinho.
Oh
là, il est chez nous et c'est bien d'avoir le vice-ministre des Affaires étrangères.
parce que le vice-ministre, parce que le vrai ministre, Apolline, on le sait tous, c'est Alain Bauer.
Bien sûr,
c'est lui qui. Bref, notre ministre a déclaré que la France était prête à participer à la défense des pays du Golfe et de la Jordanie. C'est moi ou il veut s'incruster dans une guerre, en fait. C'est marrant que c'est le gars qui est pas invité aux soirées. Il sonne avec une bouteille de champomy dans la main. Ouais, en fait, je me baladais au volant de mon porte-avions et j'ai entendu l'ambiance. Je me suis dit, mais il donne une fête, Donald. Et il vient en 2003. Dominique de Villepin avait dit non aux Américains pour la guerre en Irak. 23 ans plus tard, en 2026, Jean-Noël dit « Eh les gars, vous auriez pu prévenir qu'il y avait un truc, on n'est même pas invité. » Ça craint, quoi. Jean-Noël Barrot, dans cette guerre, c'est un peu le ministre étranger aux affaires. Pas des affaires étrangères, mais dans l'autre sens. Alors, ceci dit, conflit à Gaza, guerre en Ukraine, le Groenland, maintenant tout le Moyen-Orient qui s'enflamme, il doit regretter que les motions de censure contre le gouvernement ne soient pas passées, en fait. Il doit se dire « Merde, salaud de socialiste !» Il serait tellement plus au calme, viré, puis recasé par Macron dans un job de pantouflard dont seul le président a le secret. Vous savez, genre président du Haut Conseil de promotion de la culture du Baobab en Norvège.
Bien sûr.
Ou membre exécutif du Haut Comité d'administration réformative du groupe de pilotage de la réforme des réformes. Un truc sympa et bien payé. Alors, on en parle moins, mais l'Afghanistan et le Pakistan sont eux aussi rentrés en guerre ce week-end. Mais c'est une guerre moins bien. On est d'accord, c'est moins fun. C'est une guerre Afghanistan-Pakistan, on ne regarde pas. C'est un peu comme un match entre Metz et Le Havre. Alors que le même soir, il y a Ligue des Champions entre les USA et l'Iran. Afghanistan-Pakistan, que le meilleur gagne, j'ai envie de vous dire. Ou mieux, que les deux perdent.
Ouais.
À mon avis, c'est possible. Emmanuel Macron a annoncé hier que le nouveau sous-marin nucléaire lanceur d'engins français se nommera l'Invincible. C'est classe. Moi, je l'aurais quand même appelé le Macron.
Il sera là, plus assumé.
Oui, mais il sera là pour couler des trucs en plus. Oh, un hôpital, feu. Oh, c'est comme chez nous. Le président a annoncé qu'il allait augmenter le nombre de têtes nucléaires. Vous vous rendez compte que sous Macron, les milliardaires et l'uranium se seront enrichis. Et rendez-vous pour parler de tout ça avec Jean-Noël Barrot, ou comme disent les Italiens, Giovanni Natale Mega Tortellini, et c'est à 8h30. À tout à l'heure.
À 8h30, le ministre des Affaires étrangères. Ça se passe sur RMC et BFM TV. Et d'ailleurs, Arnaud Demanche, on vous retrouve à 8h20. Il est 7h26 sur RMC. Dans un instant, la météo et le journal de 7h30. Et puis juste après le journal, on poursuivra sur la guerre qui embrase le Moyen-Orient. À 7h50, notre voix de gauche, Cécile Duflot, elle reviendra sur le discours d'Emmanuel Macron hier sur la dissuasion nucléaire. Emmanuel Macron qui réaffirme que le président de la République restera le seul à décider, le seul. Eh bien, Cécile Duflot, justement, n'est pas d'accord. Elle estime qu'il doit partager la décision et ne pas décider seul. Elle vous le dira, c'est l'édito de gauche à 7h50, comme tous les mardis. Il est 7h26, vous n'hésitez pas, vous nous appelez aussi au 3216. À tout de suite.
RMC, Apolline Matin.
7h30, tout pile. Et c'est l'heure du journal d'Élise Nangean. Bonjour Élise.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. Le soulagement immense des premiers Français qui ont pu quitter le Moyen-Orient hier. Ils sont arrivés à Paris dans la soirée grâce à un vol commercial. Mais pour l'heure, toujours aucun rapatriement prévu par le Quai d'Orsay. Et ce, alors que les frappes sur l'Iran et sur le Liban se poursuivent ce matin. Mais le Premier ministre israélien promet « ça ne sera pas une guerre sans fin ». Et puis, plus besoin d'un master pour devenir enseignant. Un simple bac plus 3 suffit désormais.
Des premiers Français coincés au Moyen-Orient ont pu rentrer hier soir.
Ils ont pris l'un des tout premiers vols au départ d'Abu Dhabi dès la réouverture de l'espace aérien des Émirats Arabes Unis, visé par la riposte iranienne à l'offensive menée par Israël et les États-Unis. Ça n'est donc pas un rapatriement organisé par le Quai d'Orsay. Il n'y en a pas à ce stade. Autant dire que les 247 passagers de ce vol s'estiment très chanceux. Ils vous l'ont confié à leur arrivée à Roissy-Charles de Gaulle hier soir, Léonie Guilbeault.
Dans le hall des arrivées, Cécile et son mari serrent leur fille dans leurs bras. Les sourires, les embrassades et le ouf de soulagement.
Ça fait du bien.
La boule au ventre qui est descendue.
Oh, là, on est bien.
Partie pour un stage de 6 mois aux Émirats Arabes Unis, Clara s'est retrouvée bloquée suite aux frappes iraniennes sur Abu Dhabi.
Je suis très ravie d'être rentrée, je vous avoue. Le climat était un petit peu anxiogène quand même. Là, ça fait du bien. Sur place, on ne pouvait pas sortir parce que c'était quand même pas hyper safe de rester dehors. Il y avait des explosions, des incendies, etc.
Une situation aussi stressante pour Aurélien et sa famille.
On a entendu beaucoup de bombardements, on a vu l'hôtel trembler, on a vu des avions de chasse passer au-dessus de nous. Non, rien de bien rassurant, surtout pour les enfants.
En transit depuis la Thaïlande,
Finlande.
C'était une escale à la base d'une heure samedi. On a atterri et on nous a dit qu'on ne repartirait pas tout de suite.
Ils sont restés bloqués 3 jours avant de pouvoir rentrer. Christophe, lui aussi, se rend compte de sa chance d'avoir eu un vol vers la France.
On a pris l'avion et ils ont fermé l'aéroport peut-être 2 heures après qu'on soit parti.
Le PDG d'Aéroports de Paris a indiqué que les perturbations pour les vols en provenance du Moyen-Orient pourraient encore durer plusieurs jours, voire plusieurs semaines.
Et quel sera le sort des 400 000 Français présents dans la région? Je poserai la question au ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot. C'est mon invité sur RMC à 8h30.
En attendant, la situation reste très tendue ce matin. Israël frappe simultanément l'Iran et le Liban. Une guerre que le Premier ministre israélien veut rapide et décisive. Il l'a dit cette nuit sur la chaîne américaine Fox News. Et il la justifie selon Benjamin Netanyahou. C'était maintenant ou jamais.
Les Iraniens ont commencé à construire de nouveaux sites, de nouveaux bunkers souterrains. Leur programme nucléaire et de missiles balistiques était sur le point de devenir intouchable. Si aucune action n'avait été entreprise maintenant, aucune action n'aurait pu l'être dans le futur. L'opération que nous menons peut être rapide et décisive. Cela pourrait prendre du temps, mais pas des années. Ce ne sera pas une guerre sans fin.
Et restez bien avec nous, puisque juste après le journal d'Élise Dangean, mon invité, ce sera l'ambassadeur d'Israël en France, Joshua Zarqa. Un premier bilan.
Emmanuel Macron, lui, a présidé hier soir un 3e conseil de défense à l'Élysée après avoir donné un discours scruté de très près sur la dissuasion nucléaire française. Discours prononcé depuis l'île Longue, près de Brest. Un hasard de calendrier total puisque le président devait s'exprimer sur le sujet avant que la guerre n'éclate. Mais ça tombe bien, Cyprien Pézril, puisqu'il a annoncé une montée en puissance de notre force nucléaire.
Oui, à commencer par une augmentation du nombre de têtes nucléaires, c'est-à-dire la charge explosive des missiles. Combien Emmanuel Macron, volontairement flou, ne le dit pas, mais c'est une adaptation nécessaire.
Le demi-siècle qui vient sera un âge d'armes nucléaires. La France y tiendra tout son rôle. Pour être libre, il faut être craint.
Le président, le ton martial devant le téméraire sous-marin nucléaire français, présente surtout sa nouvelle doctrine.
Nous entrons sur le chemin de ce que j'appellerais la dissuasion avancée.
Avancée parce qu'élargie, pour l'instant, à 8 États d'Europe, Allemagne et Royaume-Uni notamment, coopération renforcée dans le renseignement, exercice conjoint et présence de la dissuasion française au-delà de ses frontières.
Nos forces aériennes stratégiques pourront ainsi se disséminer dans la profondeur du continent européen. Cette dispersion sur le territoire européen, à la manière d'un archipel de forces, compliquera le calcul de nos adversaires.
Et Emmanuel Macron d'insister en réponse à ses opposants politiques. Pas de partage, le président français et lui seul gardera la main sur le bouton nucléaire.
Il est 7h34 sur RMC. Le concours pour devenir enseignant, nouvelle formule, entre en vigueur aujourd'hui. Il est désormais accessible aux étudiants dès la fin de leur licence. Jusqu'ici, il fallait un master pour devenir prof, mais face aux difficultés de recrutement, le gouvernement a décidé d'ouvrir les portes du métier un peu plus grand et ça semble fonctionner puisqu'on constate une augmentation de quasi 50% du nombre d'inscrits par rapport à l'an dernier. Et ça, vous l'avez constaté à Rennes, Martin Lange.
Oui, comme Axel, en première année de master, il débute ce matin ses épreuves pour devenir professeur de PS.
Je mets toutes les chances de mon côté pour réussir. Moi, ça me permet de gagner une année et puis clairement une deuxième chance, comme on peut le passer aussi l'année prochaine en M2. Donc, on est dans la bonne position, on va dire.
Autre nouveauté de cette réforme, s'il réussit le concours, il intégrera une formation lors de laquelle il sera payé 1 400 € dès l'année prochaine. Une excellente nouvelle, selon Albin.
Pour nous, étudiants, je pense que ouais, c'est bien, ça nous forme un peu plus vite. On est payé aussi un peu plus tôt parce que... Attendre la fin du master pour commencer à travailler et être payé, bah c'est un peu long.
Achille lui prépare l'ancien concours ouvert au bac plus 5 et il s'interroge sur la formation de ses candidats moins diplômés.
J'estime même ne pas encore être totalement prêt à exercer pleinement ma fonction, donc sur des candidats L3, ça nécessitera de les accompagner.
Et de ce point de vue, justement, le compte n'y est pas selon Sébastien Vieille. Il est secrétaire national du syndicat enseignant, le SNALC.
Au départ, on était tout à fait favorable à cette mesure. Le problème, c'est les conditions dans lesquelles ça se fait et surtout la perte de qualité. Les futurs enseignants ne vont pas être bien armés.
Les syndicats qui saluent tout de même la hausse des inscriptions au concours tout en la nuançant. Beaucoup de candidats se seraient en réalité inscrits aux 2 concours, Bac plus 3 et Bac plus 5.
Et puis le Quintet Élise, 13h55 sur l'hippodrome de Chantilly.
Et voici, comme chaque jour, le pronostic de la Dream Team des courses RMC. Le favori aujourd'hui, c'est le numéro 7, Sous la Neige. L'outsider, c'est le 5, Fève.
C'était le journal d'Élise Dangean, 7h36, et on va directement j'allais dire à la source, à la pompe, puisque Jean-Claude nous appelle de Perpignan. Et Jean-Claude, vous êtes gérant d'une station-service. Bonjour Jean-Claude.
Bonjour Apolline.
Comment ça va, Jean-Claude? Vous avez entendu tout à l'heure ces auditeurs qui disent « Ah, on a l'impression que les pompistes commencent déjà à gonfler les prix. Quel est le vrai du faux là-dedans »
Alors, c'est simple. Alors, bon, on va faire simple. Là, c'est moi, j'ai vendu ma station depuis hier matin. Donc, c'était le dernier camion que je faisais pour livraison. Par rapport à vendredi, le pétrolier m'a augmenté de 15 centimes à l'achat. Ah. 15 centimes hors taxe, hein, bien sûr. Hein. Donc là-dessus, vous rajoutez la TVA. Et moi, donc, je gagne. Enfin, mon successeur continue à gérer de la même façon. Il gagnera toujours 8 centimes au litre.
D'accord.
Sur le carburant. Donc c'est pas les pompistes qui se gavent. Ce sont les pétroliers en amont, c'est-à-dire Total, BP, Exxon, voilà.
Qui vous augmente alors que eux-mêmes, ce pétrole qu'ils vous vendent, enfin cette essence qu'ils vous vendent, ils l'ont en stock. Donc
ils
l'ont acheté avant le début de la guerre.
Exactement, tout à fait. Il y a plus de 3 mois de stock dans chaque entrepôt en France. Donc, vous imaginez la marge qu'ils vont se faire sur une seule journée. C'est impressionnant.
D'expérience. Est-ce que vous voyez comment les évolutions du prix, au-delà de la question effectivement là de ceux qui profitent à court terme, à moyen terme, ça va augmenter, c'est sûr?
Ah oui, ça va continuer. Parce que déjà, les approvisionnements, on va dire, qui vont être bloqués plus ou moins sur la région, d'accord. Donc les tankers vont avoir du mal à approcher pour la nouvelle et tout ça. Donc automatiquement, il va y avoir une baisse de stockage sur la région. Et les prix vont augmenter artificiellement, ça c'est sûr, au niveau de la pompe. Ouais. Mais ça sera pas les stations-service qui vont se gaver. Eux, ils gagneront même les grandes surfaces. Hein. Ouais. Les grandes surfaces sont à 2 centimes, 3 centimes de marge. Ils changeront pas leur politique. C'est pas dans l'air du temps. Ça.
Petite émotion quand même, Jean-Claude, j'imagine, quand le dernier camion est reparti.
Et oui, Apolline, c'est fini.
J'ai eu l'habitude de vous avoir régulièrement pour nous donner les prix à la pompe. Et donc, c'est la retraite?
Bah oui, alors je vous explique, on a une date identique tous les deux. Ouais. C'est-à-dire 68 ans le 21 mars.
Ah, le 21 mars, très belle date. Très belle date. C'est le printemps et c'est l'anniversaire donc de Jean-Claude et d'Apolline, je dois le dire. Félicitations à vous Jean-Claude aussi pour cette nouvelle période dans votre vie. On vous attend toujours autant au 32-16. Il est 7h38.
RMC jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
Il est 7h42 et vous êtes bien sur RMC et RMC Story. Bonjour Joshua Zarka.
Bonjour.
Vous êtes l'ambassadeur d'Israël en France. Israël qui promet que la guerre contre l'Iran sera rapide. Donald Trump, lui, a parlé hier de 4 à 5 semaines, voire même que ça durerait le temps nécessaire. Vous êtes donc aux côtés des États-Unis dans ces bombardements de l'Iran, mais également du Liban depuis hier. On va y revenir. Un mot d'abord sur cet objectif de guerre. Quand considérerez-vous que les objectifs de cette guerre sont atteints et quels sont ces objectifs?
Il y a 3 objectifs. Le premier est de nous débarrasser complètement des capacités résiduelles dans le domaine nucléaire qu'avaient les Iraniens. Pendant la guerre des 12 jours, nous avons attaqué le programme nucléaire, mais immédiatement après cette attaque, les Iraniens, à l'époque Khamenei, avaient décidé de faire rentrer de le programme nucléaire très profondément dans les souterrains qu'ils avaient spécialement construits pour cela, ce qui ne nous aurait pas permis d'arrêter le programme nucléaire quand nous aurions pris la décision. Donc, le programme nucléaire. Secondo, le programme balistique. Les Iraniens, depuis la guerre des 12 jours, produisaient quelques dizaines jusqu'à une centaine de missiles balistiques de longue portée par mois. Donc, ils avaient repris la construction avec l'aide de la Chine pour pouvoir menacer mon pays, et non seulement mon pays, mais aussi toute la région. Et le troisième but est d'affaiblir le régime afin d'aider le peuple iranien de se débarrasser de ce fléau qui est le fléau pour toute la région.
Affaiblir le régime, ça ne veut pas dire renverser le régime.
Vous savez, on ne peut
J'imagine que chaque mot que vous utilisez est patiemment choisi.
Voilà, on ne peut pas renverser, on ne peut pas changer de régime, faire un changement de régime en attaquant avec des attaques de l'air. C'est clair. Et ce n'est pas à nous de choisir le prochain régime iranien. C'est aux Iraniens eux-mêmes. Ce que nous faisons, c'est les aidons à le faire, pas plus.
Quelle quel chaos partout, quel embrasement. L'aviez-vous anticipé quand vous voyez la réplique iranienne à la fois sur Riyad, sur le Koweït, même Chypre, le blocage du détroit d'Ormuz? Est-ce que vous anticipiez ce chaos?
Nous anticipions être attaqués, nous anticipions que les bases, c'est les Américains nous-mêmes, anticipions que les bases américaines allaient être attaquées. Mais là, on voit exactement le caractère inhumain de ce régime, parce que c'est pas nous qui les attaquent, c'est pas Israël qui les attaque, c'est pas les Américains qui les attaquent. Ils attaquent tout ce qui est à leur portée. Tout simplement, tout ce qui est à leur portée. Des civils au Bahreïn, des civils à Dubaï, à Abu Dhabi, des civils au Koweït, même à Oman, qui est un pays allié pour eux. Ils attaquent partout, afin de créer un chaos. L'idée pour eux est de vraiment faire sentir à la région le prix de ce qu'est cette guerre.
Je rappelle, Joshua Zarqa, que vous êtes l'ambassadeur d'Israël en France. La question du Liban, évidemment, ouais. Le Hezbollah qui a donc attaqué le nord du Liban, Israël qui réplique au moment où l'on se parle, il y a des bombardements sur le Liban, y compris Beyrouth. Pourquoi Beyrouth ?
D'abord, Hezbollah a attaqué le nord d'Israël, pas le nord du Liban.
Le nord d'Israël, bien sûr.
Et Beyrouth, c'est la Dakhia. Ce que nous avons attaqué, c'est la Dakhia. D'abord, hier, nous avons... La Dakhia, c'est le quartier qui est dirigé, dans lequel tout le Hezbollah est géré. Le headquarters.
Le quartier général du Hezbollah.
Du Hezbollah se trouve à Beyrouth, dans le quartier qui s'appelle la Dakhia. Et il y avait aussi une des cibles qui a été attaquée hier, c'était la banque du Hezbollah. C'est une banque, simplement là où le Hezbollah recevait l'argent qui leur était envoyé par l'Iran. L'année dernière, ils ont reçu $1 milliard de l'Iran, justement pour financer leurs activités, pour financer le terrorisme. Et donc hier, nous avons attaqué aussi cette banque et nous avons détruit tout ce qu'il y avait à l'intérieur. Et ce qui ne leur permettra pas de pouvoir se rétablir.
Vous avez évoqué, enfin pas vous, mais le gouvernement de Benjamin Netanyahou a évoqué la possibilité d'envoi de troupes au sol au Liban. Vous nous le confirmez ce matin ?
C'est une des options, bien sûr, si le Hezbollah n'arrêtait pas de tirer. Le Hezbollah a pris une décision stratégique de se joindre à la guerre. Il pourrait prendre une décision d'arrêter de tirer sur Israël.
C'est ce
là,
que lui demandent d'ailleurs les autorités libanaises.
Oui, bien sûr.
Pour la première fois, on a l'impression d'une rupture nette entre les autorités libanaises et le Hezbollah,
à qui
ils ont demandé de cesser les bombardements, qu'ils n'ont vraisemblablement pas.
Sur un des journaux libanais hier, il y avait le titre était le suicide du Hezbollah.
C'est l'Orient le jour, l'Orient le jour de ce matin qui a été publié en effet hier soir, c'est le Hezbollah suicide le Liban.
Vous savez, nous n'avons aucune dispute avec le Liban, avec le pays du Liban, rien. Nous n'avons pas de dispute territoriale, c'est un pays qui pourrait être appelé ami. Nous avions même un accord de paix en 1983 avec le Liban. La seule raison pour laquelle il y a ces hostilités, c'est le Hezbollah qui est dirigé par l'Iran.
Pourquoi vous n'avez pas prévenu la France ?
Parce que c'est des opérations qui sont israélo-américaines et que ces genres de choses d'opérations, il est préférable de les garder dans un cercle très très restreint.
Une question sur les bombardements samedi sur une école du sud de l'Iran à Minab. Les autorités iraniennes parlent de 168 morts dans cette école de filles. Est-ce que c'est un bilan que vous-même vous confirmez ?
Non. D'abord, ce n'est pas un bilan que nous confirmons. Secondement, ce n'est pas une attaque israélienne.
Ce n'est pas une attaque israélienne ?
Non.
C'est quoi, alors ?
Je ne sais pas. Certains sites parlent d'une attaque iranienne même. Des entités d'opposition iraniennes disent du fait que c'était une attaque manqué par les Iraniens, un missile qui était tombé là où il ne devait pas tomber.
Vous affirmez que ce n'est pas Israël qui est à l'origine de cette frappe. Les États-Unis disent examiner les faits. Eux-mêmes, ce ne serait pas une attaque américaine ?
Je parle pour Israël. Je sais ce que je dis. Les Américains, je pense, disent la même chose. Je pense que c'est plutôt une erreur de frappe iranienne qu'autre chose. Je sais que ce n'est pas une attaque israélienne.
Ce n'est pas une attaque israélienne. Non. Et sur le nombre de morts, est-ce que vous savez,
non.
Vous n'avez pas d'informations sur le terrain.
On n'a pas d'informations. C'est impossible pour nous de savoir exactement ce qui s'est passé, sur combien de morts il y a eu sur place. Je sais que ce n'est pas une attaque israélienne.
On apprend que par le Financial Times d'Israël qu'il y aurait eu un piratage des caméras de circulation en Iran pour repérer tous les allers-retours et tous les trajets des officiels iraniens de leur voiture. Est-ce que, effectivement, vous pouvez nous confirmer cette information ce matin ?
Ce que je peux vous confirmer, c'est qu'Israël a des capacités de renseignement très développées en Iran et que nous savions et nous savons énormément de ce qui se passe à Téhéran, dans le régime, et où se trouvait, comme vous avez pu remarquer, chacun des dirigeants du régime le matin de l'ouverture de cette guerre, et c'est pour ça d'ailleurs qu'ils ne sont plus avec nous.
Un dernier mot sur la situation en France. Le ministre des Affaires, de l'Intérieur hier a dit relever les niveaux de sécurité pour toutes les cibles potentielles. Ouais. Il avait un peu plus tôt évoqué aussi la question des lieux de culte juifs. Est-ce que vous avez une inquiétude pour les juifs de France ?
Nous avons une inquiétude. Vous savez, l'Iran a toujours utilisé, le régime iranien a toujours utilisé le terrorisme comme quelque chose de légitime, comme un outil légitime contre Israël, contre ses dissidents. Pour eux, le terrorisme en France, c'est quelque chose de légitime. Alors oui, bien sûr, nous sommes inquiets. Je suis inquiet pour mon ambassade, pour mon équipe. Je suis inquiet pour la communauté juive de France. Mais j'ai aussi entièrement confiance à la République française qui combat ce terrorisme et qui combat ce fléau depuis toujours.
Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions ce
Merci
matin. Joshua Zarka, vous êtes l'ambassadeur d'Israël en France. Je notais également qu'à 8h30, mon invité sur RMC, BFM TV, ce sera le ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot. Il est 7h51 dans un instant, c'est la voix de gauche, comme tous les mardis. Cécile Duflot, vous allez revenir sur le discours d'Emmanuel Macron hier, sur la dissuasion nucléaire. Il a reconfirmé que seul le président de la République pourrait décider. Et ça vous plaît pas, Cécile ?
Non, il a essayé de dire que la doctrine française devait changer. C'est intéressant, mais il peut pas le faire seul, surtout dans ce contexte politique.
Vous nous le dites dans un instant. Il est 7h51.
RMC, Apolline Matin.
Dans un instant, la voix de gauche, Cécile Duflot. Mais d'abord le bonus. Avec vous, Mathieu, qui va représenter la France à l'Eurovision alors ?
Pour perdre à nouveau, diront les mauvaises langues, ou pour y croire encore une fois. En tout cas, pour faire mieux que l'an dernier. Louane, qui avait fini 7e, Slimane l'année d'avant 4e, Barbara Pravi 2e en 2021. Ça va mieux, mais on est toujours à rapper Marie-Myriam, l'oiseau et l'enfant 77. Cette année, on mise tout sur la voix, comme vous l'entendez. Une jeune artiste, Monroe, révélée par l'émission Prodige de France Télé, un télécrochet pour enfants virtuoses du classique. Et Monroe, soprano franco-américaine de 17 ans, y a ébloui le public et le jury. Comme elle a ébloui, ce que vous entendez, les Anglais en gare de Londres, King's Cross, avec cette reprise de Rosalia façon flash mob, Monroe, mère française, père américain, né à Salt Lake City, à 17 ans, ça pourrait être la relève de la France à l'Eurovision le 16 mai prochain à Vienne, on y croit.
RMC, Apolline Matin. Voix de gauche, voix de droite.
Il est 7h53 et c'est l'heure de la voix de gauche comme tous les mardis avec vous, Cécile Duflot. Cécile, écoutez, c'était hier sur la base navale de l'île Longue dans le Finistère.
Le demi-siècle qui vient sera un âge d'armes nucléaires. La France y tiendra tout son rôle. Pour être libre, il faut être craint.
Emmanuel Macron qui était donc au pupitre avec derrière lui l'un des 4 sous-marins nucléaires français. Vous vouliez revenir sur ce discours, Cécile Duflot. Pour vous, Emmanuel Macron ne doit pas décider seul de la défense nationale.
Oui, alors la scénographie était parfaite, hein. Le président de la République seul devant un sous-marin à l'île Longue qui joue au grand soldat pendant que le monde brûle. L'effet de dramaturgie était parfait, mais il y a quand même un gros hic. Et le gros hic, c'est qu'on... Personne n'imagine qu'un homme seul peut engager l'avenir de 450 millions d'Européens sans qu'il y ait un seul débat, même à l'Assemblée nationale ou au Parlement européen. C'est intéressant, sa réflexion, d'expliquer les nouvelles menaces, comment travailler sur une dissuasion avancée. D'ailleurs, les anciens présidents français avaient tous, plus ou moins, y compris d'ailleurs François Mitterrand et même, pour une part, le général de Gaulle, tâtonnaient autour de cette question. Mais le problème, c'est qu'on ne peut pas imaginer qu'un seul doigt sur un bouton remplace le vote et l'adhésion de millions de citoyens.
Oui, mais enfin, Emmanuel Macron, c'est, en tant que président de la République, le chef des armées. C'est son rôle officiellement.
Effectivement, c'est son rôle, mais le domaine réservé ne signifie pas que le président de la République puisse engager seul, au-delà du discours, l'ensemble de la politique française. D'ailleurs, il n'en a pas les moyens. Et le problème dans ce contexte français qui est aussi compliqué, c'est que dire qu'on a des milliards pour étoffer l'arsenal, qu'on ne va plus compter les têtes nucléaires, mais que on ne peut pas engager la transition écologique ou on n'a plus d'argent pour l'hôpital public, eh ben, on risque de créer une tension avec la société française. Parce que pendant qu'on discute de la portée des missiles, on oublie aussi que la menace existentielle, elle vient pas d'Iran pour nous tout de suite. Elle vient de notre inaction climatique.
Ouais, enfin là, c'est vrai que président de la République, c'est aussi choisir, c'est aussi décider, c'est la Constitution.
Effectivement, mais il faut avoir les moyens. Enfin, c'est le budget de la défense. À la fin, il sera voté par l'Assemblée nationale. Et donc, la question dans une fin de mandat qui plus est sans majorité, c'est comment on crée du consensus. On a vu les réactions politiques très divergentes. Et je le dis, je pense que son rôle, ce serait davantage de créer de l'unité nationale dans un moment compliqué. Et cette unité nationale passe par le dialogue et par le consensus. C'est à peu près le contraire de ce qui s'est fait, de ce qui s'est fait jusqu'à maintenant. Et c'est dommage parce que je pense que justement, face à l'histoire, plutôt que d'être debout devant un sous-marin, il devrait être capable de créer ce consensus et cette unité nationale du peuple français.
Ce qui vous a choqué aussi, Cécile, c'est l'annonce que la France ne communiquera plus sur le chiffre précis de son arsenal nucléaire.
Oui, la conclusion de son discours, c'est que pour être libre, il faut être craint. Je pense que pour être libre, il faut être en paix. Et le chemin de la désescalade nucléaire a été un chemin de paix pour l'ensemble de notre continent sur les 50 et même les 70 dernières années. Donc il faut absolument renouer avec ce chemin et se dire que c'est davantage de solidarité, d'apaisement et qui permet la sécurité, que la vraie puissance, c'est pas de pouvoir décider seul de la fin du monde ou de faire exploser une bombe nucléaire, mais de décider ensemble de son avenir. C'est là que le président de la République serait pleinement dans son rôle.
Merci Cécile Duflot. Tous les mardis, la voix de gauche. Demain, ce sera la voix de droite. Il est 7h57. On se retrouve dans un instant. La météo et le journal. Et à la une du journal de 8h, nous serons en direct de Beyrouth avec l'une de nos envoyées spéciales. À tout de suite.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Il est 7h59 sur RMC et il fait beau, Anthony.
Eh oui, un air de printemps encore pour ce mardi. Un temps très sec, très ensoleillé, à l'exception du Languedoc-Roussillon, des Cévennes et de l'Est de la Corse, où là vous aurez nuages, averses et vents. Et puis en cours d'après-midi, quelques passages nuageux en guise de décor près des côtes de la Manche ou encore vers le Massif central et un petit voile entre les Pyrénées, la Provence et la Côte d'Azur. Les températures, on part de 1 degré ce matin en Alsace et en Lorraine jusqu'à 12 degrés à Toulouse et en cours d'après-midi, très grande douceur avec souvent entre 16 et 19 degrés, jusqu'à 20 pour Ajaccio.
La météo sur RMC avec Penny Lane, l'outil qui réunit compta, facturation et compte pro.
Quand la compta va, tout va.
Excellente journée à tous, merci d'avoir choisi RMC, il est 8h.
RMC, Apolline Matin.
Le journal de Quentin Vinet. Bonjour Quentin.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. Nous serons au Liban dès le début de ce journal avec les deux journalistes de RMC en direct sur place. Elles nous raconteront la nouvelle nuit de bombardement puisqu'il y a encore eu des frappes toute la nuit visant le Liban et l'Iran aussi qui a riposté. On va y revenir longuement. On verra les conséquences en France avec déjà des files d'attente devant les stations-service. Il y a la crainte d'une pénurie de carburant. Et que faire des 400 000 Français bloqués en ce moment dans cette région du monde? Le ministre des Affaires étrangères et l'invité d'RMC ce matin.
Nous sommes en direct du Liban ce matin sur RMC.
Au quatrième jour du conflit au Moyen-Orient, Israël dit donc avoir mené des frappes ces dernières heures, des frappes simultanées visant l'Iran et le Liban. Le Liban, c'est là où se trouvent depuis hier donc les deux envoyés spéciaux de RMC en direct ce matin, Inès Zegloul, Marion Gauthier. Marion, vous confirmez, il y a eu des bombardements encore cette nuit.
Oui, dès notre arrivée à l'aéroport, l'armée de l'air israélienne bombarde très régulièrement depuis l'aube sur des villages à la frontière avec Israël, sur la banlieue sud de Beyrouth, qui est comme plongée dans un brouillard épais ce matin. Le Hezbollah affirme de son côté avoir ciblé 3 bases militaires en Israël. Et je me suis rendue chez Rita, dans le quartier chrétien de la capitale libanaise, télévision allumée, à regarder les panaches de fumée sur son pays.
Je pense qu'on est épuisé, moralement, physiquement, les pénuries, la panique des gens. C'est toute l'atmosphère du pays qui en pâtit. On s'est retrouvé réembarqué dans une guerre pour laquelle on n'a rien demandé. On n'est quand même pas aux frontières de l'Iran. Donc je ne comprends pas pourquoi on va détruire un pays, une infrastructure, des rêves, un avenir pour des jeunes, des gens qui sont dans les rues parce qu'il n'y a pas d'endroit où ils vont loger. Tout ça, c'est épuisant.
Cela ne prendra pas des années, ce ne sera pas une guerre sans fin, a assuré le Premier ministre israélien hier, Benjamin Netanyahou, qui a justifié l'attaque contre l'Iran. Il fallait éviter que les programmes nucléaires et de missiles balistiques soient trop développés, enterrés, qu'ils deviennent, dit-il, intouchables.
Marion Gauthier avec Inès Seglou, les deux envoyés spéciales d'RMC, donc en direct ce matin de Beyrouth au Liban. Les États-Unis de leur côté disent qu'ils ont détruit des postes de commandement des gardiens de la Révolution cette nuit en Iran. Mais alors l'autre fait marquant de la nuit, c'est la riposte de l'Iran qui a visé l'ambassade américaine à Riyad en Arabie Saoudite. Réaction immédiate des États-Unis qui ferment plusieurs de leurs ambassades dans la région, qui évacuent du personnel diplomatique et qui appellent aussi eh bien, les Américains à fuir cette région dès maintenant par des vols commerciaux. Le souci, c'est qu'il y en a très peu. Le trafic aérien semble quelque peu reprendre depuis les Émirats Arabes Unis ce matin avec plusieurs vols vers l'Europe qui ont décollé au départ de Dubaï et d'Abu Dhabi. Mais c'est insuffisant pour la quantité de personnes en voyage ou en transit dans la région. Le Quai d'Orsay estime que 400 000 Français s'y trouvent en ce moment. C'est le cas, par exemple, et vous allez l'entendre, de Mirvette, une Française de 62 ans qui a composé le 32-16. Elle nous a téléphoné à RMC ce matin, très tôt, pour raconter eh bien, qu'elle est bloquée à Dubaï où elle rend visite à sa famille installée là-bas.
Nous sommes confinés à la maison, il n'y a pas d'école, il y a des moments où c'est vraiment très tendu, ça vibre de partout, les explosions, on les entend fortement. Et je suis avec mes petits-enfants et ma fille et mon gendre. Et en tant que grand-mère, reconforter les enfants qui paniquent et qui pleurent quand ils entendent ces explosions, ce n'est pas facile parce que nous n'avons pas d'abri. Je viens d'apprendre tout de suite que apparemment certains vols seraient probablement possible aujourd'hui. On aimerait bien rentrer chez nous.
Alors, contrairement à l'Allemagne et à l'Italie, la France n'organise pas de rapatriement pour ses ressortissants. On verra ce qu'en dit le ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, qui sera l'invité d'RMC tout à l'heure à 8h30 au micro d'Apolline, au lendemain d'un troisième conseil de défense qui se tenait hier soir à l'Élysée. Et alors, il y aura désormais des réunions tous les jours à Bercy, se consacrer au prix de l'énergie et au commerce mondial, à l'arrêt, vous le savez, avec le blocage du détroit d'Ormuz où transite 20% du pétrole mondial. Et effet immédiat, chez nous en France, on constate déjà dans de nombreuses villes eh bien, des files d'attente plus importantes que d'habitude dans les stations-service, c'est ce que nous dit Romain Houck pour RMC.
Ce sont des automobilistes inquiets qui font la queue dans les stations essence. De Marseille à Calais, en passant par Niort, il faut s'armer d'un peu de patience pour faire le plein. C'était le cas aussi à Villeneuve-Loubet, près de Nice, hier après-midi.
Moi, j'ai la moitié du plein. Je préfère quand même assurer mes arrières en tant qu'artisan, parce que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de route à faire.
Je pensais pas qu'il y allait avoir autant de monde, mais ça m'étonne pas, en fait, à vrai dire. Parce que je pense qu'il y a là deux, trois infos qui sont sorties sur plus d'essence, l'augmentation de l'essence. Ça donne ça.
Mais pour l'instant, pas de raison de s'alarmer, dit ce matin sur RMC l'économiste Anne-Sophie Alsif. Selon elle, l'heure n'est ni à l'explosion des prix, ni aux pénuries.
Qu'est-ce qui s'est passé depuis la crise avec le Covid? C'est que les producteurs de pétrole ont énormément produit. En termes d'offres et de demandes, finalement, vous avez beaucoup d'offres, moins de demandes. Et au niveau européen, il y a des mécanismes justement qui existent pour éviter qu'on ait des explosions.
D'autant que la France dispose de 90 jours de stock stratégique d'hydrocarbures, assure de son côté Francis Pousse, le président national station-service du syndicat Mobilience. Inutile donc, assure-t-il, de se ruer à la pompe.
Pour être tout à fait complet, de fortes explosions viennent d'être entendues à l'instant, rapportent des journalistes à Téhéran, la capitale de l'Iran. Et ce conflit qui en est à son quatrième jour a pour effet bien de faire dégringoler les marchés. Les places boursières ont terminé cette nuit dans le rouge en Asie, moins 7% par exemple pour la bourse de Séoul. C'est la chute la plus importante donc de ces dernières heures. On connaît, tiens, ce matin, chez nous en France, le montant de la facture. Les assureurs évaluent à 1,2 milliard d'euros le coût des dégâts de la tempête Niels et des inondations dont on a beaucoup parlé ces dernières semaines dans l'ouest de la France. On est au lendemain du verdict au procès en appel des quatre hommes qui étaient rejugés pour leur rôle dans l'assassinat de l'enseignant Samuel Paty en 2020. Trois des quatre peines prononcées hier soir ont été allégées. La plus lourde, celle de 15 ans de réclusion, reste inchangée. Et alors, on va reparler aujourd'hui, et vous vous en souvenez très certainement, de la mort d'Elisa Pilarski, il y a 6 ans, cette jeune femme de 29 ans, enceinte de 6 mois, qui avait été retrouvée morte et même mutilée dans un bois de laine. Elle promenait ce jour-là le chien de son compagnon, Curtis, s'appelait le chien, compagnon qui sera jugé à partir d'aujourd'hui à Soissons. Constance Bostoen du service police-justice à RMC, pourquoi ce compagnon jugé? Eh bien parce que c'est son chien qui est accusé d'avoir mordu à mort la jeune femme.
Oui, la mère d'Elisa Pilarski attend que Christophe Hellul, l'ancien compagnon de sa fille, prenne ses responsabilités, car elle est persuadée que c'est bien son chien Curtis qui est à l'origine de la mort de sa fille, comme elle l'exprimait en 2022 sur le plateau de BFM TV.
Elisa a promené Curtis dans la forêt. Ils ont entendu en même temps les chiens de chasse à court, du bruit, beaucoup d'aboiements. Je pense qu'Elisa a eu peur, malgré qu'elle était enceinte de 6 mois. Est-ce qu'elle a voulu le prendre dans les bras et s'est retournée contre elle?
Les chiens de la chasse à court ont été mis hors de cause par l'enquête. En revanche, ce qui qui interroge les enquêteurs, c'est le profil même de Curtis. Importé illégalement des Pays-Bas par son maître, il était exercé au mordant, une technique de dressage interdite en France, qui pour autant ne le rendait pas dangereux, selon Alexandre Novion, l'avocat du prévenu.
Il n'y avait aucun élément de nature à pouvoir lui donner le moindre signe avant-coureur permettant effectivement de lui faire prendre des mesures drastiques de séparation ou d'éloignement qui consistait à empêcher Elisa de manier ce chien.
Christophe Ellul risque jusqu'à 10 ans de prison et 150 000 euros d'amende. Curtis, lui, est en captivité depuis les faits, toujours considéré comme un scellé.
Et alors c'est confirmé en football, Kylian Mbappé souffre bien d'une entorse au genou. L'attaquant du Real et des Bleus qui a été examiné par un médecin spécialiste, un français. Hier il est venu à Paris, Kylian Mbappé. Il devrait échapper à l'opération, mais il n'y a aucun délai qui a été prononcé pour son retour.
C'était le journal de Quentin Vinet, il est 8h08, on va parler économie.
RMC, Apolline Matin.
Le chiffre d'affaires.
Emmanuel, le Chypre, le blocage du détroit d'Ormuz provoque une perturbation sans précédent de tout le commerce mondial.
Oui, et d'abord pour une raison assez simple, c'est que jamais ce détroit n'avait été fermé, même dans les périodes de fortes tensions qu'on a connues par le passé. On pense notamment à la guerre entre l'Iran et l'Irak. Le gaz et le pétrole, évidemment, ça pose un problème. C'est évident, mais on va pas y revenir. Tout le monde le sait. 20% environ de la production mondiale de pétrole et de gaz naturel liquéfié passe par ce détroit. Mais il n'y a pas que les hydrocarbures qui passent par ce détroit d'Ormuz. Il y a aussi toutes les marchandises qui arrivent au port de Dubaï. Or, il faut rappeler que le port de Dubaï, Jebel Ali, c'est le 10e port mondial de conteneurs. C'est la plaque tournante de la redistribution pour plus d'une dizaine de pays dans la région. Et donc, dans ce port, les portes-containers sont déchargés sur des bateaux plus petits à destination de pays allant de l'Afrique de l'Est à l'Inde. Donc, c'est une perturbation déjà régionale.
Quand on regarde ce qu'il y a sur ces bateaux, justement, c'est quoi? Quelles sont les marchandises qui passent par le détroit d'Ormuz?
Il y a des voitures, il y a des machines, il y a des produits industriels qui viennent d'Allemagne, par exemple. Depuis la France, ce sont surtout des céréales et des produits agricoles, des cosmétiques, des produits de luxe et pharmaceutiques. L'Italie, elle, exporte surtout de l'agroalimentaire, beaucoup de marbre, des céramiques. Les Pays-Bas, de l'agroalimentaire aussi. Ça, c'est ce qu'on envoie vers cette zone. Et puis, dans le sens de l'exportation, outre les produits pétroliers et gaziers, il y a des engrais, plastique. Le Moyen-Orient, c'est 9% de la production mondiale d'aluminium, dont la quasi-totalité est exportée.
Alors, j'ai dit d'ailleurs, passe par le détroit. Mais c'est faux, parce qu'on ne passe pas par le détroit. On en sort. Ça n'est pas sur la route. Et c'est malgré tout ce qui permet de se dire que tout n'est pas fichu pour le commerce mondial.
Alors, ce qui est subtil, c'est qu'en fait, ce détroit d'Ormuz, effectivement, c'est un cul-de-sac. Donc, il n'est pas primordial, apparemment, sur la grande route commerciale entre l'Asie et l'Europe, puisque cette grande route commerciale entre l'Asie et l'Europe, elle ne passe pas à l'est de l'Arabie Saoudite par ce golfe, par ce détroit d'Ormuz. Elle passe plutôt à l'ouest par la mer Rouge et le canal de Suez. Sauf que les armateurs ont décidé aussi d'éviter la mer Rouge et le canal de Suez en raison des craintes liées à la reprise d'attaque des outils. Voilà. Et donc, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Eh ben, ces grands armateurs, ils ont décidé de passer par le cap de Bonne-Espérance, donc de contourner par la pointe de l'Afrique, ce qui rallonge le parcours d'une dizaine de jours pour un surcoût de 30% environ. Et d'ailleurs, il y a plusieurs plateformes d'e-commerce qui ont prévenu leurs clients que leur temps de livraison allait se rallonger. On a dit quelques jours chez Temu et Shein, une dizaine de jours pour Amazon, avec un surcoût de transport. Alors, il faut savoir que le coût de transport, c'est entre 1 et 5% des marchandises qu'on achète. Donc, si vous achetez, par exemple, un colis à 100 euros chez Temu ou chez Shein, il faut s'attendre à ce que le surcoût, voilà, ce soit jusqu'à 3, 4 euros, 5 euros.
C'était donc l'économie avec Emmanuel Le Chypre. Il est 8h11 sur RMC.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Dans un instant, Arnaud Demanche nous rejoint à 8h30, notez-le, mon invité dans le face-à-face sur RMC et BFM TV, c'est le ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot. Juste après, Nicolas Canteloup, face à Canteloup, tous les jours en direct sur RMC à 8h50. Restez bien avec nous, il est 8h12.
RMC, Apolline Matin.
C'est tous les jours de manche.
8h14, Arnaud Demanche est avec nous. Salut Arnaud.
Mais oui, bonjour. Bonjour. Bonjour, je suis là pour vous faire passer un moment feel good. On en a besoin. Un moment feel good pour commencer cette chronique. Car, Apolline, un petit éléphant est né au zoo de Beauval. Il Ingrid est avec nous. La maman se porte bien et c'est tellement mignon. Et une autre actu feel good, Apolline. Bien. On va tous crever.
Non.
J'ai lu dans le magazine Science et Avenir que l'horloge de l'apocalypse, vous voyez, c'est le truc qui symbolise l'imminence de l'apocalypse nucléaire avec une pendule.
D'accord.
Eh bien, elle a été encore rapprochée de minuit. Elle est à 85 secondes avant l'apocalypse. Donc le feu nucléaire est proche. Alors petit message à toutes les filles qui, depuis mon adolescence, ont dit qu'elles ne coucheraient avec moi qu'en cas de fin du monde. Hello. Vous connaissez mon Instagram. Je prends une douche et je suis à vous. Allez, l'actu. Eh bien l'actu, Apolline, ce sont les juifs. Enfin, c'est... Exactement, Jean-Luc Mélenchon qui est accusé d'antisémitisme à cause de sa manière de faire semblant de se tromper quand il prononce des noms juifs, ce qui est en creux une manière d'insister dessus. Hein. Donc ce week-end, c'était Jeffrey Epstein, il a dit « Epstein, ça fait plus russe !» Comme ça, tout le monde sait bien comment il faut faire. Clin d'œil, clin d'œil. Sous-entendu, Epstein, c'était la vraie prononciation. Et puisqu'on a changé la prononciation, c'était pas pour rien. Clin d'œil, clin d'œil. Et donc là, il a récidivé en disant « Raphaël Glucksmann, n'est-ce pas ?» Et Marine Le Pen direct « Oh, papounet, tu es de retour. Non, lâchez-moi, madame. Je suis un dur à cuire. »
Mais non pas un dur à four, crématoire, n'est-ce pas?
Oh, c'est exactement ce qu'aurait dit papa. Et oui, clin d'œil, clin d'œil. Ben non, si je cligne d'un œil, je vois plus rien. Décidément, la réincarnation est parfaite.
Elle est parfaite, cette réincarnation.
Alors, en matière d'antisémitisme, on sait que c'est très important, la prononciation. Hein. Si vous dites, dans mon quartier, il y a une synagogue, ok. Si vous dites, dans mon quartier... Il y a une synagogue. On sent que le gars est pas content qu'il y ait une synagogue dans son quartier. Ben Mélenchon, c'est un peu ça. Jamais il va dire « Mes amis, n'oubliez pas qu'il y a des juifs parmi nous ». Il va dire « Mes amis, n'oubliez pas qu'il y a des juifs parmi nous ». Et après, il envoie Manuel Bompard faire le SAV.
Service après-vente
de Mélenchon. Alors,
Manuel Bompard, Jean-Luc Mélenchon encore dérapé.
Mais pas du tout, madame. Il a dit qu'il y avait des juifs parmi nous, car chez les insoumis, on accepte tout le monde.
Non, non, il l'a pas dit comme ça.
Ah bon? Vous savez mieux ce que Jean-Luc Mélenchon a dit? Non, madame. On accepte tout le monde, que ce soit les juifs ou les gens normaux.
Ah, voilà. Alors, c'est ça.
Hier, Mélenchon s'est excusé. Ouais. Il a dit, j'ai pas fait exprès. Aucune des 13 fois j'ai fait exprès. Tout ça, c'est la faute des médias. Et les médias, on sait par qui ils sont tenus, madame. Hein, par les... Oh non, encore dérapé. Oh, oh papa. La revoilà.
Théâtre de boulevard.
La guerre en Iran.
Ah oui, non, mais là, c'est des marionnettes, des effets spéciaux, des feux d'artifice.
La guerre en Iran se poursuit, Arnaud.
Oui, et Ali Khamenei est mort. Il faut désormais chercher un nouveau guide suprême en Iran. Ça ne doit pas être une place très enviée en ce moment. Bon, les gars, qui veut être le nouveau guide suprême?
En ce moment, ça m'arrange pas. Hein. J'ai les gosses à garder, le petit fait pas ses nuits.
Bon, toi, ça te dit?
Non, moi, non, non. D'ailleurs, je suis même pas musulman, moi. Hein. Je suis pas.
Bah, t'es imam quand même.
Oui, mais bon, c'est le marché de l'emploi en ce moment.
Bref, personne veut y aller. Alors, sur Ali Khamenei, j'ai lu un truc extraordinaire sur le site d'Euronews, des témoignages de proches et des amis de l'ex-guide suprême qui disent il s'intéressait à la poésie et il jouait de la cornemuse.
Oui.
Voilà.
Non.
Si. L'ayatollah Khamenei jouait de la cornemuse.
Mais non.
Je pense qu'il a joué un morceau à son gouvernement. Les mecs ont décidé d'interdire la musique dans la foulée. Défendu pour toujours. Non, mais c'est fou cette info. Quand même. Euronews existe toujours.
Savez-vous?
Jouer de la cornemuse. Quel monstre, hein? La cornemuse. Alors, les Bretons ont tenu à se désolidariser de l'ex-dictateur iranien. Il y a une règle ancestrale, hein. La cornemuse ne doit pas être jouée dans un pays où l'alcool est interdit.
Oui.
C'est pas possible. Alors, on déconne, mais si ça se trouve, c'était très apprécié. Et franchement, le tableau, Apolline, vous auriez vu. Tous les gardiens de la révolution chantaient en chœur pendant que l'ayatollah les accompagnait à la cornemuse. C'est plus fun que ce qu'on croyait, l'Iran. Hein. C'est rigolo. Bon, et puis courage aux 72 vierges qui vont devoir se le farcir pour l'éternité. Oh putain, le lourd. Eh Ali, stop, hein. Je sens que je vais rester vierge en fait. Pas comme ça que je vais perdre mon pucelage, moi. Enfin, quand je pense que j'aurais pu tomber sur Jeffrey Epstein. Il est pas dispo, Jeffrey. Il est pas là. Oh putain, il a ramené tous ses potes. Ça va être long l'éternité. Hein. Vous savez, je pensais pas réussir à caser Michel Sardou, les lacs du Connemara et l'Ayatollah Khamenei dans le même paragraphe. Eh bien, c'est chose faite.
Bravo.
On n'aura pas mieux vous scouter là-dessus. Eh bien, à demain.
Arnaud, je veux rester avec vous. Je peux pas aller faire les interviews.
Oui, interview,
oh là là.
Sur la guerre et les porte-avions. On est mieux avec Michel Sardou.
Demain. Donc, dans un instant, le face-à-face. Mais d'abord, Nando qui nous appelle d'Orly. Bonjour, Nando.
Bonjour,
vous êtes chauffeur
Pauline,
poids lourd. Eh ben, ça
oui.
va et vous? Est-ce que
ça
vous
va,
les avez vus, là, les... Eh ben, exactement. Je suis bien contente de vous entendre. Vous êtes dans le camion?
Super. Oui, oui, toujours dans le camion.
Alors, les prix à la pompe?
Eh ben, depuis hier 15 heures, le dernier plein que j'ai fait, ça a pris 12 centimes.
En 12 centimes entre hier 15 heures et là ce matin?
Ouais.
Ah ouais, ouais, ouais. ouais. Vous avez entendu Jean-Claude tout à l'heure, la pompe à essence de Perpignan, qui dit qu'en fait, c'est les fournisseurs, quoi.
Ouais, c'est les fournisseurs, mais moi, avec le patron, on s'était dit de faire le complément des camions hier, mais par hasard, juste au cas où. Bon, on a bien fait, parce que sinon, ça nous aurait coûté un plein,
ouais,
qu'on l'aurait fait ce matin.
C'est fou. Donc,
juste en faisant le complément.
Vous avez été très, très, très intuitif, on peut le dire comme ça, Nando.
Ouais, mais ça a commencé à tremper, les pompes à essence, ça a commencé à avoir du monde à
ce
côté
matin.
De chez nous, à Clamart. Ouais.
Ce matin, non, hier, là, déjà, ça y est, il y a la queue.
Hier après-midi, déjà, ça commençait.
Et ce matin, encore de nombreuses files devant les pompes à essence. C'est ce que vous nous dites sur vos messages. Merci, Nando. À la prochaine. Nando qui nous appelait donc d'Orly depuis le camion. Il est 8h21. Dans un instant, ça se passe sur RMC et BFM TV. Mon invité, c'est le ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot. De très nombreuses questions à lui poser, bien sûr, à la fois sur le sort de nos ressortissants dans la région là-bas, mais aussi, au fond, cette question par le jeu même du mécanisme des alliances. Nos alliés étant touchés sur place, que ce soit Abu Dhabi, que ce soit le Koweït, les Émirats, eh bien, est-ce que nous-mêmes, la France, ne sommes pas en guerre ou en tout cas impliqués? Je lui pose la question, bien sûr, dans un instant. À tout de suite. Merci d'écouter RMC, il est 8h23.
RMC, Apolline Matin.
Et le rappel des titres, Élise Dangean.
Des frappes ciblées et simultanées à la fois sur l'Iran et le Liban, menées ce matin par Israël, qui promet ça ne sera pas une guerre sans fin, disait cette nuit son premier ministre. Benjamin Netanyahou, persuadé qu'il fallait frapper Téhéran maintenant, avant qu'il ne soit trop tard, et que son programme nucléaire ne devienne intouchable. Et après, ça n'est pas à nous de choisir le prochain régime iranien. C'est ce que disait ce matin sur RMC l'ambassadeur d'Israël en France, Joshua Zarqa. En France, justement, toujours pas de rapatriement en vue pour les 400 000 ressortissants présents dans la région. Mais un vol commercial en provenance d'Abu Dhabi a pu atterrir hier soir à Charles de Gaulle avec à son bord 247 passagers. Aujourd'hui, le ministre de l'économie recevra les fédérations d'entreprises touchées par la guerre. Les auteurs de la fatwa numérique contre Samuel Paty, de nouveau condamnés en appel, l'un à 15 ans de prison comme en première instance. C'est le prédicateur islamiste et il a annoncé ce pourvoir en cassation, les trois autres à des peines inférieures. 1 200 000 euros, c'est la toute première estimation du coût des tempêtes Niels et Pedro et des dégâts qu'elles ont causés dans l'ouest du pays. Estimation réalisée par la Fédération France Assureurs. La météo, justement, avec un temps qui sera souvent ensoleillé sur presque tout le pays, à l'exception du Languedoc-Roussillon, des Cévennes et de l'est de la Corse, où vous aurez des nuages, du vent et quelques averses, quelques passages nuageux aussi près de la Manche et autour du Massif central.
La météo sur RMC avec Penny Lane. L'outil qui réunit compta, facturation et compte pro.
Quand la compta va, tout va.
C'était le rappel des titres d'Élise Dangean. Dans un instant, mon invité sur RMC et BFM TV, c'est le ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot. De très nombreuses questions à lui poser. D'abord sur la situation de nos ressortissants sur place dans la région, mais aussi sur l'évolution de la doctrine de dissuasion nucléaire. Et cette question, au fond, par nos alliances, sommes-nous déjà en guerre?
RMC jusqu'à 9h. Apolline Matin. Face à face. Apolline de Malherbe.
Il est 8h28 et vous êtes bien sûr RMC et BFM TV. Bonjour Jean-Noël Barrot.
Bonjour.
Vous êtes le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Merci d'avoir accepté de répondre à mes questions ce matin. Elles sont évidemment très nombreuses. Des questions d'abord sur la situation de nos ressortissants dans la région, leur éventuel rapatriement. Des questions sur l'évolution de notre doctrine de dissuasion nucléaire et ses conséquences. Et des questions aussi sur nos alliances. Un mot que vous avez prononcé hier, prête. La France se tient prête. Par le jeu des alliances, nos alliés étant pour certains touchés, sommes-nous de facto impliqués dans cette guerre?
Non, pas de facto, mais chacun le voit. Cette guerre qui a été initiée par les frappes d'Israël et des États-Unis et auxquelles l'Iran a répondu de manière totalement inconsidérée et indiscriminée, entraîne dans le conflit un certain nombre de pays de la région avec lesquels nous avons des relations, des accords de défense et dans lesquels nous avons des intérêts, y compris des bases militaires. Et donc, ce que j'ai dit hier et ce que le président de la République a rappelé, c'est que la France se tient prête à défendre ses partenaires à leur demande de manière proportionnée et évidemment conformément au principe de légitime défense collective qui est un principe du droit international.
Ça veut dire qu'à tout moment, s'ils nous le demandent, nous interviendrons.
Ça veut dire en tout cas que nous avons le droit d'intervenir et que nous nous tenons prêts à le faire. Évidemment, c'est au président de la République de prendre la décision.
On va prendre le temps justement d'essayer de comprendre ce que ça veut dire. Quand vous parlez de ces alliances, nous avons donc des alliances, nous, la France, avec plusieurs États de la région, les Émirats Arabes Unis, le Qatar, le Koweït, qui ont été visés ces 48 dernières heures. Vous les avez eu au téléphone. Est-ce que des demandes ont été faites ou est-ce qu'à ce stade, ils ne nous ont pas demandé de les aider ?
Ce sont des échanges qui sont en cours. À propos du renforcement de leur défense par le biais de mise à disposition d'équipements. Lorsque les décisions auront été prises, elles seront communiquées, mais effectivement, par les canaux diplomatiques, des échanges sont très fréquents à tous les niveaux, mais également par les canaux militaires. Je le redis, il faut bien voir que dans ce conflit, il y a bien sûr les États-Unis et Israël d'un côté, l'Iran de l'autre, mais nous avons beaucoup de pays tout autour, on parlait du Liban à l'instant, qui se retrouvent malgré eux, entraînés dans une guerre qu'ils n'ont pas choisie. Et notre responsabilité de partenaire de confiance, de pays concernés, puisque nous avons 400 000 ressortissants dans la douzaine de pays qui sont concernés.
On va prendre le temps, évidemment, de comprendre quel est leur
sort. C'est de ne pas nous mettre la tête dans le sable. Et c'est d'apporter des réponses de protection pour
protection,
ces pays et pour nos
défense,
intérêts sur place.
En aucun cas offensif, mais pardon, je voudrais vraiment que l'on soit très précis, effectivement, puisque vous laissez entendre, au fond, que si les décisions, quand les décisions seront prises, elles seront communiquées. Ça veut dire qu'au moment où on se parle, potentiellement l'un de ces pays avec qui nous sommes alliés est en train de nous dire, voilà, moi j'ai besoin que vous vous teniez prêts. Vous nous avez toujours dit que vous nous défendriez. Nous ne nous déroberons pas s'ils nous le demandent.
On se débordera pas. Vous avez bien vu, comme moi, que un hangar d'une base française aux Émirats Arabes Unis a été touché par un drone. Nous sommes là dans un pays avec lequel nous avons des accords de très longue date. Et dans une situation pareille, vous imaginez bien que les échanges se multiplient pour savoir comment à la fois le pays peut se défendre contre de futures attaques et comment la France peut protéger ses intérêts dans ce pays-là.
Vous évoquez effectivement notre base à Abu Dhabi, cette très grande base navale en dehors du territoire français. Elle a été en effet touchée. Est-ce que ça veut dire que sur cette base-là, c'est la France qui est visée ou c'est le territoire plus largement?
On peut pas être aussi catégorique, vous savez.
Est-ce que le drone a ciblé la France?
Voilà. Ce sont des dégâts extrêmement limités et uniquement matériels. On ne peut pas avoir la certitude que la France était explicitement ciblée. Donc on réagit en prenant le temps de l'analyse. La situation est suffisamment grave pour ne pas s'emballer. Mais c'est évidemment l'objet d'un certain nombre de conversations que nous avons avec nos partenaires sur place.
Est-ce que vous pouvez nous confirmer que des rafales français basés à Abu Dhabi sont intervenus au cours du week-end pour neutraliser des drones?
Nous avons, aux Émirats, puisque nous avons cette base navale et cette base aérienne, où nous sommes rendus avec le président de la République, la ministre des Armées, au mois de décembre, pour soutenir nos troupes.
Pour passer effectivement
pour passer le
la fin de l'année avec nos troupes sur place.
Ces rafales et leurs pilotes sont mobilisés pour assurer la sécurité de notre emprise.
Vous n'infirmez
et notre
pas
emprise.
Le fait qu'ils soient intervenus donc ce week-end.
Ils ont conduit leurs opérations de sécurisation du ciel au-dessus de nos bases et donc des ennemis.
Le Charles de Gaulle est-il en route?
Le Charles de Gaulle est en Suède. J'étais moi-même la semaine dernière dans le cadre de ses missions otaniennes.
Il y est encore?
Écoutez, moi j'y étais vendredi dernier. Il y était, je vous le confirme.
Donc vendredi il y était, mais vous ne voulez pas nous dire si aujourd'hui il y est encore?
À ma connaissance, il est dans le nord de l'Europe.
Dans le nord de l'Europe, mais peut-être en train de sortir de la mer Baltique.
Pas à ma connaissance.
Il y a des frégates multimissions qui sont en exercice autour de Toulon. Est-ce qu'elles pourraient, elles aussi, se rendre sur place, potentiellement?
Rien n'est exclu, comme je...
Je comprends votre prudence, hein, mais
comme je vous le
mes
rappelais...
questions sont très précises, mais je comprends effectivement que de votre côté, il soit difficile de me donner ces informations, mais je pense que c'est important que les Français comprennent, quand vous dites « la France est prête »,
Jusqu'où ?
La France est prête à se protéger, protéger ses ressortissants, protéger ses intérêts dans la région et ses partenaires. Elle dispose de moyens dont certains sont déjà disposés parce que avant la guerre, il y avait des exercices ou des opérations dans la zone. D'autres sont à la disposition du chef de l'État pour, s'il le juge opportun, apporter ce niveau de réassurance, soit pour nous-mêmes, et dans le cadre d'éventuelles opérations de protection, soit pour nos partenaires, parce qu'une présence, une simple présence, que ce soit en mer Rouge ou en Méditerranée, a un effet dissuasif.
Une question maintenant sur nos ressortissants, avec deux volets. L'un qui est la question de la menace qui pèse sur eux, en restant sur place, dans une zone qui peut être touchée. Et l'autre, c'est la question aussi de leur éventuel retour, voire rapatriement. D'abord, sur le danger imminent ou non. À l'aube, l'ambassade des États-Unis en Arabie Saoudite à Riyad a été touchée par des drones iraniens. L'ambassade des États-Unis au Koweït l'aurait été un peu plus tôt dans la nuit. Est-ce que vous avez un message à faire passer, ou avez-vous fait passer un message au personnel, notamment des ambassades françaises sur place? Est-ce que vous estimez qu'ils pourraient être eux aussi visés comme le sont les Américains?
La situation, pour des raisons évidentes, est différente. Une ambassade américaine n'est pas exposée comme l'est aujourd'hui une ambassade française. Ceci étant dit, vous avez raison de le rappeler, ça me permet de saluer le courage, l'engagement et le professionnalisme des agents de nos ambassades dans la région. Nous sommes très vigilants à ce que l'évolution de la situation ne les place pas en situation de danger, précisément. Ensuite, vis-à-vis de nos ressortissants, les conseils sont très clairs. La plus grande prudence, le respect strict des consignes qui sont données par les autorités locales. Et puis ensuite, en fonction de la situation des pays, des voies de sortie aérienne ou terrestre, eh bien, de les emprunter en suivant constamment les consignes de sécurité qui sont données sur le site et actualisées régulièrement, je l'ai vérifié ce matin, sur le site diplomatie.gouv.fr.
Jean-Noël Barrot, combien de Français sont précisément sur place? Ont-ils tous été à peu près localisés? Et allez-vous les rapatrier pour certains?
On a 400 000 ressortissants français dans la douzaine des pays qui sont aujourd'hui concernés par la situation. Pour l'essentiel, ce sont des Français qui résident dans la région, y compris des binationaux. Pour d'autres, ce sont des Français de passage. Ces Français de passage, nous les invitons, pour pouvoir les recenser, pour pouvoir savoir où ils sont, à s'inscrire sur le fil Ariane, sur le site du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. À ce stade, c'est plus de 25 000 personnes que nous identifions comme Français de passage s'étant inscrits. C'est vers eux, bien sûr, que nous
tournerons. Vous avez un chiffre là-dessus? Vous avez eu l'information sur combien, dans ces 400 000, combien sont de passage?
Par définition, je n'ai pas ce chiffre, puisque quand on est de passage...
Mais combien se sont en tout cas inscrits depuis 24 heures?
Plus de 25 000 personnes.
D'accord.
Pardon, les 25 000 personnes, c'est celles qui se sont inscrites, celles qui s'étaient inscrites avant le début des opérations militaires, et celles qui se sont inscrites depuis. Et j'invite celles et ceux qui ne l'ont pas encore fait à le faire pour que nous puissions les localiser.
Et qu'est-ce que vous allez faire ensuite, une fois qu'ils seront localisés?
Eh bien, nous allons continuer à leur faire parvenir les consignes de sécurité et les informations pour faciliter leur retour en France.
C'est-à-dire, c'est à eux, par leurs propres moyens, de rentrer.
Nous allons faciliter d'abord le retour en France, chaque fois que ce sera possible. Nous avons, par exemple, mis en place aux frontières entre l'Israël et l'Égypte et la Jordanie des équipes consulaires qui, à la frontière, vont faciliter le passage des ressortissants français qui souhaitent sortir par la voie terrestre et puis ensuite emprunter un vol depuis l'Égypte ou la Jordanie.
D'accord.
Le même dispositif, qui avait déjà été éprouvé lors de la guerre des 12 jours, est aujourd'hui mis en place aux Émirats Arabes Unis, aux frontières avec Oman et aux frontières avec l'Arabie Saoudite. Deux pays dont, jusqu'à présent, l'espace aérien est ouvert. En parallèle, nous renforçons nos équipes sur place, qui sont très, très sur le pont depuis 72 heures, et nous renforçons nos équipes à Paris pour que la réponse téléphonique, qui est assurée jour et nuit, puisse se faire sans délai d'attente. Et enfin, nous nous préparons à des affrètements de vol pour que les personnes les plus vulnérables, les personnes qui méritent d'être accompagnées, puissent, le cas échéant, en bénéficier.
Dans ce cas, ce seraient des avions de la République française ou des avions mobilisés par la République française qui pourraient rapatrier. Quand vous dites les plus vulnérables, ça veut dire quoi? Ça veut dire les plus vulnérables physiquement, ça veut dire les plus vulnérables, j'allais dire socialement, qui n'ont pas les moyens de rentrer par leurs propres moyens. Sur quels critères estimez-vous qu'ils sont les plus vulnérables?
Vous m'avez posé deux questions. La première, c'est le type de vol. Eh bien, il y a toutes les possibilités. Il y a des vols commerciaux sur lesquels on parvient à obtenir des blocs de places. Il y a des vols que nous pouvons affréter, des vols civils que nous pouvons affréter. Il y a aussi des possibilités qui pourraient se présenter ou que nous pourrions solliciter d'avions de la République française. Ensuite, s'agissant des personnes vulnérables, ce sont les postes diplomatiques, les ambassades et les consulats qui sont au contact de nos ressortissants sur place, en lien avec le Quai d'Orsay, qui établit ces listes pour que les personnes vulnérables puissent retourner en France en priorité.
Comment vous avez réagi, Jean-Noël Barrot, lorsque vous avez entendu les premiers appels d'un certain nombre, comme on appelle, d'influenceurs qui disaient leur détresse et qui appelaient la France à l'aide?
Moi, je comprends l'inquiétude profonde de nos ressortissants sur place. Je mesure aussi l'angoisse de leurs familles qui, ici, en France, attendent leur retour. Et je leur dis que nous allons, avec toutes les équipes du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, nous mobiliser jusqu'à ce que chacun d'entre eux soit retourné en France.
Vous ne demandez pas, comme les Américains, à tous les citoyens français de quitter immédiatement la région. Votre homologue américaine exhorte les citoyens américains, je cite, à quitter immédiatement les pays du Moyen-Orient en utilisant les vols commerciaux disponibles depuis Bahreïn, l'Égypte, l'Iran, l'Irak, Israël, la Jordanie, Gaza, la Jordanie, le Koweït, le Liban, Oman, le Qatar et l'Arabie Saoudite, ainsi que la Syrie, les Émirats Arabes et le Yémen. Nous n'avons pas fait de liste comme celle-là et nous ne demandons pas à tous les Français de partir.
Apolline de Malherbe, j'aimerais pouvoir le faire, mais la plupart des pays que vous avez cités, que vous venez de citer, ont fermé leur espace aérien. Et donc il est très difficile pour nos ressortissants sur place de pouvoir quitter
ces pays.
Mais s'ils
peuvent partir, vous leur dites partir.
Bien sûr, certains pays ont maintenu leur espace aérien ouvert. C'est le cas de l'Arabie Saoudite, d'Oman, du Liban. C'est vrai aussi des Émirats Arabes Unis où hier, quelques vols sont partis. Où sont repartis, l'espace aérien s'étant réouvert. Évidemment, pour les Français de passage, nous les invitons à ce que, si les conditions le permettent, ils puissent sortir du pays et notamment prendre les vols pour ceux qui sont en attente.
Pour les Français de passage, hein, on est bien d'accord. C'est-à-dire que les Américains, eux, ils demandent à tous les Américains de partir.
Non, mais attendez, la priorité, c'est évidemment la sécurité pendant ces opérations militaires de nos ressortissants, de nos intérêts, mais c'est aussi d'aller au plus vite à la désescalade, puisque vous voyez bien comment chaque jour qui passe, ce conflit s'élargit et a tendance à s'aggraver. Pardon de revenir au Liban, mais je vois,
j'allais y venir,
grâce
ce matin,
aux journalistes
ce
de BFM
matin,
notamment, des
matin,
images,
des
images
soldats.
qui me rappellent celles de l'automne 2024, qui a précipité le Liban au bord du précipice. Et si le pays n'y est pas tombé, c'est parce que la France, en lien avec les États-Unis, a obtenu un cessez-le-feu. Et un accord de cessez-le-feu.
Quel sera le rôle de la France là, précisément sur cette question du Liban?
Bien, d'abord de condamner la lourde erreur du Hezbollah qui a entraîné un pays qui était pourtant en train de se remettre sur les rails dans une guerre qu'il n'a pas choisie, de dénoncer les violations par Israël de l'intégrité territoriale du Liban et d'appeler toutes les parties à respecter cet accord de cessez-le-feu qui enfin nous permettait d'entrevoir un meilleur avenir pour le Liban.
La France devait avoir un rôle justement notamment dans le désarmement du
Bien
Hezbollah
sûr.
Que demandent les autorités libanaises qui appellent le Hezbollah à cesser immédiatement toute part au conflit. Est-ce qu'il est encore temps pour la France justement de proposer son aide sur ce point-là?
Merci de rappeler que les autorités libanaises hier ont été très claires. Elles ont dénoncé les frappes menées par le Hezbollah sur le nord d'Israël. Elles ont appelé à son désarmement. Elles ont déclaré comme illégale la branche armée du Hezbollah. Et ce désarmement, il est indispensable, il est essentiel. Nous l'appelons de nos voeux et nous ne faisons pas que l'appeler de nos voeux. Nous avions prévu d'organiser ce jeudi une conférence consacrée au renforcement des forces armées libanaises, celles qui doivent disposer du monopole des armes. Cette conférence, nous espérons pouvoir la tenir au plus vite, mais pour ça, il faut bien sûr que l'escalade militaire puisse s'arrêter dans la région.
Deux nouvelles alliances, en quelque sorte, se sont dessinées aussi ces 48 dernières heures. Paris, Londres, Berlin, qui ont parlé d'une seule et même voix en disant qu'ils étaient prêts à des actions défensives. Et puis, hier, Emmanuel Macron qui a annoncé donc que la France entrait dans une nouvelle étape de sa dissuasion nucléaire, avec une dissuasion avancée, avec un certain nombre de nouveaux partenaires. Est-ce que ça veut dire en quelque sorte qu'ils deviennent, j'allais dire presque nos petits frères, ou est-ce qu'ils sont nos partenaires à égalité? C'est-à-dire qu'on garde, nous, l'autorité décisionnelle, mais on partage avec eux la protection. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que ça veut dire concrètement?
Bien sûr. C'est un discours historique qui fait franchir une étape à notre dissuasion, qui est un trésor national et qui va rester indépendante et française de bout en bout. Plus précisément, l'appréciation des intérêts vitaux appartiendra uniquement au président de la République et la décision d'emploi de l'arme nucléaire appartiendra exclusivement au président de la République. Mais il y a deux dimensions nouvelles. La première, c'est que nous allons durcir notre dissuasion en relevant notre arsenal, le nombre de nos têtes nucléaires. Le deuxième élément majeur, c'est que nous allons créer des coopérations nouvelles avec les pays européens dans le cadre de cette dissuasion avancée qui va leur permettre de participer à des exercices, de s'associer à des manœuvres de signalement ou de pouvoir accueillir sur leur sol des déploiements de circonstances. C'est ce qui est très avantageux pour nous.
Potentiellement, nous aurions des armes atomiques qui seraient situées, localisées en Allemagne, par exemple.
Ou en tout cas des capacités militaires qui pourront ainsi se disperser, compliquer le calcul de l'adversaire.
Mais pour autant, si un jour l'Allemagne, par exemple, nous dit « Écoutez, je suis menacé, il faut activer la bombe », on pourra toujours dire non?
C'est le président de la République qui appréciera souverainement si les intérêts vitaux de la France sont effectivement concernés et c'est lui qui, sur cette base, appréciera souverainement l'opportunité de faire emploi de l'arme nucléaire. Et cette dissuasion nucléaire restera intégralement financée par la France, par les contribuables
français. Intégralement financée, ça veut quand même dire qu'ils vont pouvoir en profiter, mais c'est nous qui payons?
Nous développons avec eux des projets de coopération pour tout le volet de notre sécurité qui n'est pas nucléaire. C'est ce qu'on appelle dans le jargon militaire le volet conventionnel. Les systèmes d'alerte pour savoir quand des missiles, nucléaires ou non, entrent dans nos espaces ou se dirigent vers nos espaces aériens. La défense antiaérienne, comment? C'est le grand sujet du moment.
Évidemment,
dans la guerre avec l'Iran.
Voit évidemment avec le fameux dôme de fer.
Et puis ensuite, ce qu'on appelle maintenant, on a pris l'habitude de ce terme depuis la guerre en Ukraine, les frappes dans la profondeur, qui est une arme offensive, mais qui a vocation à gérer une escalade militaire sous le seuil nucléaire, puisqu'on a vu avec la guerre en Ukraine qu'on pouvait avoir une très forte intensité de conflictualité, de guerre, sans que les seuils nucléaires ne soient franchis. Et donc ces projets de coopération, c'est à l'échelle européenne qu'il faut les mener, et c'est aussi une manière pour nos partenaires de contribuer à la défense du territoire national par le développement de ces projets communs.
Merci beaucoup Jean-Noël Barrot d'avoir accepté de faire le point sur RMC et BFM TV ce matin. Vous êtes ministre des Affaires étrangères. Je voudrais également redonner le numéro de la cellule de crise. Vous l'avez évoqué. Je donne ce numéro donc pour tous ceux qui nous écoutent de l'étranger et qui ont besoin d'informations, 01 43 17 51 00. Comme ça, c'est dit. Merci beaucoup.
Merci à vous
d'avoir accepté de répondre à mes questions. Il est 8h47 sur RMC BFM TV. Dans un instant, Nicolas Canteloup débarque avec son impertinence et son humour. Face à Canteloup, c'est tout de suite sur RMC.
RMC, Apolline Matin,
8h50. Face à Canteloup.
Tous les matins, l'info revisitée par Nicolas Canteloup. Jean-Noël Barrot était mon invité ce matin et nous avons évidemment parlé de l'Iran. Dominique de Villepin, vous souhaitiez réagir?
Oui, bonjour. Dominique de Villepin, ex-ministre des Affaires étrangères, mais toujours bien sûr top modèle de la diplomatie. Souvenez-vous de la façon, Madame de Malherbe, dont j'avais séduit le monde en m'opposant à la guerre en Irak. Le verbo à la proue du bateau monde, tel DiCaprio sur Titanic.
Oui.
Aujourd'hui, vous venez de recevoir dans vos locaux ce jeune ministre des Affaires étrangères pour son stage de troisième. J'ai très bien compris que j'étais pour lui une sorte, disons-le, d'inspiration. Alors je lui dis bonne chance, jeune Padawan.
Bon, sur ce conflit, monsieur de Villepin, la France a déclaré ne pas avoir été prévenue ni impliquée.
Écoutez, c'est une totale incompréhension. Comment, je dis bien comment, car je monte sur mes grands poneys. Comment la France a pu être ainsi oubliée, je dirais même ostracisée. Du temps où j'étais aux Affaires étrangères, vous en souvenez, jamais, je vous le dis bien, jamais on ne m'aurait laissé de la sorte sur le bas-côté. Comment, je le dis, le chef de la diplomatie, Jean-Noël Bulot, a-t-il pu être ainsi ignoré?
Jean-Noël Barrot, monsieur de Villepin.
Oui, Barrot, peut-être. Peu importe. Je poursuis mon envolée. Comment, je dis bien, comment le président Trump a-t-il pu ne pas informer au moins notre ministre des Armées, Catherine Vacherin.
Non, c'est Catherine Vautrin.
Mais on s'en fout de la vieille. De grâce, ne m'interrompez pas pour ce genre de détails.
Ah, pardon.
Hein? Aujourd'hui, le plus important, c'est que le Qatar me demande des conseils en ces jours graves. Et pourquoi est-ce là l'essentiel, je vous le dis, madame de Malherbe? Parce que quand je vois ce que je facture au Qatar en temps de paix, vous imaginez comment je me gave en temps de guerre.
Merci, monsieur de Villepin. Ce matin, Marc-Olivier Fogiel est avec nous pour les titres. Bonjour, Marco.
Oui, bonjour, Apolline. Oh, la vache, ça pète de partout, j'adore. On ressort tous les jingles qui font peur, les habillages rouges vifs, les bandeaux, édition spéciale, super spéciale, en direct exclusif, sur place, de là où on est, au moment où ça pète, pile au moment où vous regardez, en exclusivité, super spéciale. Hein. Je peux vous dire qu'un ministre, un missile, pardon, qui tombe. Oui, un missile, pardon. Oh, ma langue a fourché. Un missile qui tombe sur un immeuble juste derrière le reporter avec une grosse fumée noire. Hein, ce qui est une autre chose que les agriculteurs qui font des barbecues tout pourris avec des pneus qui puent. Allez, c'est parti pour les titres, Apolline. Après 4 jours de guerre, le régime iranien rappelle son droit à protéger son peuple des attaques étrangères pour pouvoir mieux le massacrer lui-même. Et puis Iran toujours après, avec la mort de l'ayatollah Khamenei, l'Iran a perdu son guide. Mais une question, un guide, est-ce vraiment nécessaire? Rappelez-moi, Pauline, depuis quand, de combien de décennies, l'Iran n'est plus une destination touristique?
Merci, Marco. Le conflit au Moyen-Orient fait craindre une flambée des prix du pétrole qui pourrait atteindre 120 dollars le baril. Bruno Le Maire, tiens, vous êtes là, bonjour.
120 dollars le baril, non mais c'est génial. Une opportunité unique, madame de Malherbe, pour relancer l'économie du pays. C'est inespéré.
Mais comment ça?
Mais c'est tout con. Vous allez à une station-service, vous remplissez un jerrycan, ça vous coûte 40 balles, et samedi, vous le revendrez 150. Vous imaginez un culbut.
Ah ouais.
Mais je pense aussi à ceux qui n'ont pas les moyens de remplir un jerrycan. Donc vous remplissez juste une tasse à café ou un dé à coudre. Hein, ça marche aussi. Même les pauvres peuvent participer.
Oui, ça se tient, ça se tient.
Oui, et on peut aller plus loin même de manière... Ah. Moi, si j'étais à la place de Le Cornu, je ferais comme au poker. All-in, je miserais tout le budget de la France pour acheter des barils. Hein, fin de semaine, on les refourgue et je peux vous dire qu'on les rembourse, nos 3 000 milliards de dettes. Hein. Et vous savez pourquoi on le fait pas? Vous savez pourquoi on le fait pas?
Non.
Vous savez pourquoi on le fait pas? Mais parce que je suis plus au gouvernement.
Ah, mais c'est ça! Mais bien sûr! Mais oui, c'est parce que vous n'êtes plus au gouvernement!
Mais oui, le redressement d'un pays, oui, ça tient à rien.
Ah ouais.
J'ai bien retourné le truc.
Ah ouais.
Je me suis refait une image de
winner. Oui, oh, on peut le dire comme ça. Merci Bruno Le Maire, en tout cas, pour faire un point sur la situation au Proche-Orient. On retrouve tout de suite Christophe Delay, tiens, certainement le journaliste le plus précis de toute la rédaction de BFM TV. Bonjour Christophe, où est-ce qu'on en est?
Oui, bonjour Apolline. Ce que je peux vous dire, c'est qu'à l'heure qu'il est, c'est-à-dire à 8h57 à l'instant, heure de Paris, c'est-à-dire 11h27, soyons précis, heure de Téhéran, nous dénombrons très exactement, vous m'interrompez si je m'égare, on dénombre très exactement 41 missiles tirés, donc, par les Iraniens sur leurs voisins du Golfe, alors que du côté américain, nous en sommes très exactement à... Soyons prêts.
Christophe, pardon de vous interrompre, mais là, ça bouge à l'instant sur Dubaï.
Oui, allez-y, Didier François, vous êtes notre envoyé spécial, je rappelle, dans le Golfe, en direct, bien sûr, des studios de BFM sur place dans le 15e à Paris. C'est dire si vous connaissez le terrain. Didier François, dites-nous en plus, cher Didier François.
Oui, donc le score vient d'évoluer sur Dubaï avec un nouveau missile iranien en pleine lucarne de l'hôtel Four Seasons.
Merci, cher Didier François, pour ces précisions. Donc cela, vous m'interrompez si je m'égare, cela porterait donc, je parle bien sûr au conditionnel, le score à 42 missiles iraniens, soyons précis, et du côté américain, nous en sommes très exactement à...
Christophe, pardon, nouvelle frappe américaine cette fois, autant pour moi, Christophe, elle a été interceptée par le gardien de la Révolution.
Écoutez, vous avez bien fait, cher Didier François, de nous interrompre, car la priorité, je rappelle, sur BFM est au direct. Le score reste donc, soyons précis, le score est précis, donc 117 missiles et demi pour les Américains, tandis que de leur côté, les Iraniens sont...
Pardon Christophe, pardon de vous interrompre, mais là ça s'agite vraiment du côté du Koweït, où après la chute d'un avion F-15, les Américains sont en train de demander la VAR, oui la VAR, et à l'instant tant l'arbitre qui visionne et qui ne, oh là 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 là, donc il ne valide pas le point pour les Iraniens, puisqu'il s'agit d'un tir de la défense koweïtienne, donc contre son camp. Apparemment, on voit, voilà où on en est.
Merci, cher Didier François. Écoutez, nul doute que nous en parlerons bien sûr ce soir avec Daniel Riolo et Gilbert Bibois dans l'After Frappe. Et dès 18h, bien sûr, sur RMC, dans Rotten sans flamme et le Moyen-Orient aussi. À vous, chère Apolline.
Merci Christophe Gellet et merci Nicolas. On se retrouve dès demain 8h50 sur RMC. Et à tout moment, podcast dans un instant, les GG avec Alain.
Bonjour Apolline et bonjour à tous. Les grandes gueules dans un instant en direct sur RMC et RMC Story. Avec ce contexte international, ce contexte de guerre, on reviendra bien évidemment sur les conséquences de cette guerre au Proche-Orient avec la fermeture du détroit d'Ormuz. Est-ce qu'on doit s'inquiéter pour les prix à la pompe? Il y avait, paraît-il, déjà des files d'attente là pour faire le plein. Vous venez en discuter avec nous au 32-16. La dissuasion nucléaire, Emmanuel Macron qui dit pour être respecté, il faut être craint, il va augmenter la dissuasion nucléaire française. Est-ce que c'est raisonnable ou inquiétant? On aura le député Jérôme Guège, député socialiste, pour savoir s'il faut un débat à l'Assemblée nationale sur la guerre au Proche-Orient, le rapatriement des Français. Bref, voilà, plein de questions qu'on va se poser avec les grandes gueules, sur lesquelles vous allez pouvoir apporter des éléments de réponse avec nous au 32-16, bien sûr, avec Charles Consigny, Jean-Loup Bonamy et Zora Bitton.